Bonsoir. Je suis Dominique Parent, agente culturelle à la Direction de la programmation culturelle, et c'est au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec que je vous souhaite bienvenue à l'auditorium pour cette troisième et dernière rencontre autour de la science du bien vieillir. Vous êtes encore présents en grand nombre ce soir, et nous sommes heureux de vous présenter nos invités, qui incarnent à nos yeux des modèles. Ils ont accepté de venir ce soir pour parler des atouts des nouveaux aînés. Ils sont là pour enrichir notre réflexion, pour renverser quelques idées reçues et, bien sûr, pour proposer des solutions. N'hésitez pas, de votre côté, à enrichir cette soirée en participant à l'échange qui suivra la rencontre. Nous avons placé un micro de ce côté-ci de la salle et j'aurai moi-même un micro sans fil que je pourrai faire circuler dans la salle. Vous remarquerez que nous avons ce soir avec nous des photographes qui sont ici, en fait, pour peut-être immortaliser cette soirée, mais aussi pour faire la promotion de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et des activités qu'on tient à la Grande Bibliothèque. J'invite maintenant la journaliste et auteure Carole Vallière à venir présenter nos invités, le docteur Régent Hébert, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, la comédienne Janine Tuteau, l'animateur Jacques Languérand. Bonne soirée à tous.
Bonsoir. Merci, Dominique. Bonsoir, tout le monde. Merci aux gens qui sont là depuis trois semaines. On se sent appuyé, supporté. C'est agréable de retrouver les mêmes visages, de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la science du bien vieillir, comme l'a appelé la Grande Bibliothèque. Et moi, je vais vous dire, ça donne quasiment envie de vieillir. Quasiment. Quand on voit les gens... Non, mais sérieusement... Quand on n'est pas rendu à l'âge que vous avez, puis qu'on regarde comment les personnes âgées sont intéressantes, comment elles peuvent être des modèles, comment elles sont vivantes, dynamiques et peuvent encore nous apprendre des choses, savez-vous que dans notre période de jeunisme, ça fait une autre vision de la personne âgée, ça fait d'autres valeurs, ça fait d'autres choses à espérer au lieu de se déprimer qu'on vieillit? Je suis certaine que vous êtes passés par là, vous aussi. Alors, ce soir, c'est les atouts des nouveaux aînés. C'est un peu, si vous voulez, les problèmes qu'on a quand on vieillit, mais aussi les solutions qu'il faudrait trouver. On a eu deux autres conférences avant. Le docteur Hébert est venu nous parler, le professeur Hébert Vérère est venu nous parler de rester vivant dans son cerveau. Ça demande de la gymnastique physique et intellectuelle. Et on peut vieillir en continuant d'apprendre. Ensuite, on a parlé d'alimentation. Il n'y a pas de repas de jouvence, comme disait Guylaine Ferland, mais il y a certainement une façon de manger et de manger, parce que les personnes âgées mangent moins et elles peuvent mettre en péril leurs muscles et donc se blesser et peut-être décéder des suites de leurs blessures. Ce soir, le docteur Régent Hébert va nous parler, lui, d'autres choses, de société et de santé. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter les personnes qui nous servent de modèle. Et Mme Janine Tuteau, la comédienne que vous connaissez bien, elle n'aime pas ça, elle. Quand on dit qu'elle est notre modèle, elle dit qu'elle est un peu gênée. Mais venez quand même nous rejoindre, Mme Janine Tuteau. Venez. Pour partager la scène avec Mme Tuteau, l'animateur et l'auteur bien connu, qui est aussi un modèle pour bien des gens, M. Jacques Languérand. Juste ici, s'il vous plaît. Avant de donner la parole au Dr Hébert, je voudrais que vous l'écoutiez comme il faut. Le Dr Régent Hébert, c'est une sommité mondiale, internationale, sur les questions du vieillissement. C'est un pionnier au Québec, c'est aussi un chef de file. C'est un homme qui a fondé un institut du vieillissement. Il est professeur titulaire, il est surtout chercheur et maintenant il est patron. Il est doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Il pourrait se contenter d'être chercheur et d'enseigner, me direz-vous, c'est bien rempli comme vie. Non, il a décidé de s'impliquer socialement. Il a proposé un mémoire, par exemple, à la Commission Romanov. Il a été coprésident de la Commission sur les aînés avec la ministre Blais. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont participé à cette commission-là à l'automne passé. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui, quand il va vous parler de ses idées, a assis ses idées-là sur sa recherche, sur sa pratique, sur son expérience et sur les choses qu'il a entendues. Je l'invite donc à venir nous parler de ses idées, le docteur Régent Hébert.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci, Mme Vallière, de cette présentation. Je dois vous avouer que je suis un peu intimidé de partager la scène avec Mme Souteau et M. Languérand, qui sont deux personnes pour qui j'ai le plus grand respect. Et donc, je vais essayer de faire ma place sur cette tribune. Merci d'être là et de venir partager avec nous des réflexions sur le vieillissement. J'ai eu le privilège de co-présider cette consultation publique sur les conditions de vie des aînés au cours de l'automne dernier. Un privilège extrêmement intéressant pour quelqu'un comme moi qui a été engagé dans la recherche, l'enseignement, dans le développement des services et l'organisation des services aux aînés. Et c'est 3 mois où on a visité 27 villes, tenu une soixantaine de séances de consultation publique, rencontré 4000 personnes âgées qui sont venues nous rencontrer. Et je dois dire que j'ai probablement serré la main à 3000 d'entre elles parce que c'était des moments extrêmement riches d'échanges avec les aînés qui ont été extrêmement généreux et généreuses dans leurs commentaires. C'est pour moi un exercice de mise à la terre ou de grounding, si vous me passez l'expression anglaise, parce que ça nous permet de valider des données scientifiques, de valider des idées qui circulent dans le milieu gérontologique, gériatrique, et de les valider avec les gens sur le terrain. Et je dois vous avouer que ça a été un exercice extrêmement riche. Ça m'a enseigné que nous sommes en pleine période de transition par rapport aux aînés. Nous allons vivre une nouvelle génération de personnes âgées, une nouvelle génération qui est arrivée à un âge plus avancé, plus en santé, plus riche aussi, plus impliquée, parce que c'est une génération qui a eu une implication sociale extrêmement importante au cours des 40 dernières années, qui a façonné le Québec d'aujourd'hui. Une génération aussi qui est la première génération d'aînés qui va pouvoir dire « J'ai payé toute ma vie pour le système de solidarité sociale et le système de santé, et maintenant je dois en profiter et je dois avoir un système accessible et un système de qualité. » La première génération d'aînés. Moi, quand mes parents sont arrivés à l'âge de 65-70 ans, ils ont reçu la pension de vieillesse. Mon père n'avait pas cotisé à des systèmes de solidarité sociale pendant sa vie active. Il avait un système de santé qui était une bénédiction pour eux. Maintenant, ce n'est pas une bénédiction, c'est un dû. Et je pense que cette nouvelle génération va changer le rapport politique qu'ont les aînés envers la société. Et je pense qu'il est temps, et il était plus que temps, de pouvoir réfléchir sur le rôle des aînés dans la société et comment la société peut intégrer, profiter de la sagesse collective qui nous arrive. Parce que oui, le Québec vieillit, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Le Québec vieillit parce que le Québec, comme d'autres pays industrialisés, a su vaincre des maladies qui autrefois étaient mortelles en bas âge. Et maintenant, on a un privilège d'avoir une société vieillissante. Et c'est un privilège. Et il y a tout un capital de sagesse qui nous arrive et dont il faut absolument exploiter la richesse. Les aînés que nous avons ont vécu à une période où pour contrer l'industrialisation du début du 20e siècle a mis en place tout un système de solidarité animé de valeurs d'humanisme dont on a hérité maintenant. Et je dois dire que, bien que l'industrialisation soit un phénomène qui est maintenant dépassé, on fait face à un nouveau phénomène qui est la technicité. Hein? Tout est technologique. Lorsqu'on téléphone dans les services publics, on se fait répondre par des boîtes vocales ou par Amélie, si vous avez déjà essayé d'appeler chez Bell Canada, et que vous avez eu une conversation avec cette charmante dame qui a de la difficulté à comprendre lorsqu'on lui parle. Mais alors, on a une société qui est de plus en plus technologique, où on valorise la technologie. Dans mon milieu, dans le milieu médical, ce qui est valorisé dans la profession médicale, c'est le geste technique. C'est ça qui est payant. Hein? Introduire un appareil quelconque dans un orifice corporel, là, c'est... ça fait vivre son homme et sa femme. Alors, on a une société qui valorise la technicité, une société technologique, et on a bien besoin, face à cette technicité, de retrouver des valeurs de solidarité, de retrouver des valeurs d'humanisme, et les aînés sont sans doute nos meilleurs alliés pour retrouver ces valeurs-là, parce qu'ils en sont imprégnés. Les aînés constituent l'infrastructure de notre société. Puis on entend beaucoup parler depuis quelques années de la négligence qu'on a eue par rapport aux infrastructures routières, hein, nos viaducs qui sont en mauvais état, nos routes qui n'en finissent plus d'être rapiécées. On a mis en place un grand chantier de 30 milliards pour faire du rattrapage et améliorer nos infrastructures. On a une autre infrastructure que sont les aînés, qu'on a négligée aussi au cours des 10, 15, 20 dernières années, et qui a besoin également qu'on mette en place tout un chantier social, de façon à pouvoir bénéficier de ces valeurs, bénéficier de l'expertise, bénéficier de la sagesse de ces personnes au bénéfice de la société. Il faut, à mon avis, cesser de rapiécer par toutes sortes de petits programmes de crédit d'impôt et d'autres pièces qu'on applique sur des problèmes sociétaux qui concernent les aînés et peut-être reconstruire des ponts, reconstruire des routes, inventer de nouvelles autoroutes pour améliorer la façon dont les personnes âgées peuvent contribuer à la société. Les aînés, c'est une ressource naturelle dont on doit assurer le développement durable, pour reprendre un vocabulaire très à la mode. Et cette ressource naturelle-là, elle pourra bénéficier à notre société québécoise à la condition qu'on puisse ménager aux aînés des conditions de vie et des services qui puissent leur permettre de jouer vraiment leur rôle. Et pour jouer un rôle dans la société, il faut repenser la retraite. La retraite, vous savez, ça a été mis en place par Bismarck, un Allemand, à la fin du 19e siècle, 1870, qui avait eu l'idée brillante de donner une pension aux soldats, aux militaires qui atteignaient 65 ans. Et ce pourquoi il a choisi l'âge de 65 ans, c'est parce que l'espérance de vie à cette époque était de 58 ans. Alors, ça lui coûtait pas cher. Et en fait, c'était un système de bonus à la survie, en d'autres termes. Et si on appliquait les mêmes critères que Bismarck en 2008, étant donné que l'espérance de vie est autour de 78-80 ans, il faudrait fixer l'âge de la retraite à 87-88 ans. Lorsqu'on arrive à 65 ans et que subitement on tombe à la retraite, et l'expression est bien choisie, on tombe à la retraite, on a encore en moyenne 20 ans d'espérance de vie. Et cette espérance de vie-là augmente d'année en année, de sorte que bientôt, il y aura plus d'années à vivre que d'années de vie au travail qui sont derrière soi. De sorte que cette retraite brutale, cette transition subite, devient de plus en plus inappropriée. Inappropriée parce que les gens ne sont plus engagés dans des travaux qui minent la santé, comme c'était le cas au milieu du 20e siècle, où on était bien content d'arriver à l'âge de 60-65 ans pour enfin se reposer et pouvoir profiter un peu plus de la vie. On n'a plus la même situation de travail et beaucoup de personnes qui arrivent à 60 ans souhaiteraient continuer à avoir une vie active sur le marché du travail. Et il faut être en mesure de pouvoir capitaliser sur ces personnes qui veulent continuer à exercer un travail, mais il faut enlever les désincitatifs à pouvoir continuer. Plusieurs désincitatifs sont inclus dans les programmes de pension privée actuellement où on calcule la pension sur les 5 dernières années, de sorte qu'il ne faut, il faut surtout pas diminuer la quantité de travail parce que ça peut handicaper les années de pension. Alors, il faut donc enlever ces désincitatifs, pouvoir permettre à des gens d'avoir une retraite progressive, de pouvoir faire une transition beaucoup plus longue entre le marché du travail et l'âge de la retraite. Il faut aussi être en mesure d'aménager les conditions de travail pour les personnes plus âgées. On dit souvent que l'absentéisme au travail, c'est les jeunes, c'est surtout le lundi matin, hein, parce que la fin de semaine était dure. Chez les personnes plus âgées, c'est le vendredi, parce que la semaine commence à être dure. Alors, il faut être en mesure d'aménager le temps de travail pour pouvoir permettre à des personnes de continuer à avoir une contribution à la société. La Finlande est sans doute un exemple extrêmement intéressant où, il y a quelques années, on a mis en place des mesures où, à partir de 60 ans, si les gens continuent à être au travail, ils ont une semaine de 4 jours, ils ont une semaine de vacances de plus, et à 65 ans, il y a une autre semaine qui s'ajoute. Donc, tout un aménagement du temps de travail qui a produit extrêmement rapidement des résultats intéressants en termes de persistance sur le marché du travail des personnes au-delà de 60 ans. Ça permet de profiter de l'expertise et surtout de l'expérience des gens. Et dans un contexte de pénurie tel que celui que nous le vivons actuellement, on a bien besoin de cette expertise et de cette expérience, non seulement pour générer une force de travail, mais également pour agir comme mentor auprès des générations plus jeunes, de façon à pouvoir transmettre ce capital de sagesse, ce capital d'expertise et d'expérience. Pour être en mesure d'intégrer les personnes âgées à la société, il faut être capable de répondre à leurs besoins de santé. J'ai dit tout à l'heure que la nouvelle génération était plus en santé, n'en demeure pas moins que les personnes âgées ont plus de problèmes de santé que les personnes plus jeunes, et il faut être en mesure de répondre de façon adéquate avec un système de santé de qualité et accessible aux besoins des aînés. Et dans ce domaine, le système de santé à financement public dont nous sommes dotés au Québec et au Canada est le meilleur moyen de répondre au vieillissement de la population. Un système de santé privé n'est pas intéressé par les aînés parce que ce n'est pas payant, ce n'est pas une activité lucrative. Et un système privé parallèle dans un contexte de pénurie de ressources amène immanquablement un drainage des ressources du public vers le privé avec une pénurie encore plus accentuée dans le régime public qui dessert les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est aussi un système à financement public, la meilleure façon de contenir les dépenses de santé qui peuvent s'emballer et atteindre des proportions astronomiques. On n'a qu'à regarder la proportion du PIB qui est consacrée à la santé chez nos voisins du Sud, où il y a 2 fois plus de ressources financières qui sont consacrées à la santé pour des indicateurs de santé qui sont beaucoup moins performants que les nôtres. On le voit tout de suite. Ce qui est privé dans notre système et ce qui augmente le plus en termes de coûts, pensons aux médicaments, pensons aux soins dentaires, qui ont des augmentations de loin supérieures à celles des postes budgétaires qui sont couverts par le financement public. Et c'est aussi, et vous le verrez tout à l'heure, un facteur d'intégration. Lorsqu'on a un seul agent financeur, on n'a pas à jouer avec 14 compagnies qui se renvoient la balle pour savoir laquelle va financer le problème de santé que vous présentez. Alors, c'est un facteur d'intégration extrêmement puissant pour être en mesure d'apporter des services de façon coordonnée. Mais notre système de santé doit s'adapter au vieillissement de la population. On a un système de santé qui a été conçu à la fin du 19e, au 20e siècle, au moment où on avait une population jeune. Une population jeune qui est victime de maladies aiguës, surtout infectieuses. Donc, on a conçu le système de santé autour des hôpitaux, qui est la réponse la plus appropriée à des problèmes de santé aigus d'une population jeune. Mais on a de plus en plus une population âgée qui est victime de maladies chroniques, qui nécessitent des soins à long terme. Et là, l'hôpital n'est pas la réponse appropriée. Et on voit très bien des signes de cette mésadaptation de l'hôpital par l'engorgement des salles d'urgence, par l'occupation de lits de soins de courte durée par des malades qui nécessitent des soins à long terme. Il faut donc, avec une population vieillissante, recentrer le système de santé autour du domicile, du lieu de résidence de la personne qui vit un problème de santé chronique et qui nécessite des soins à long terme. Et quand je parle de domicile, ce n'est pas juste le petit bungalow de banlieue, là. Je parle du lieu de résidence, que ce soit une tour d'habitation, une résidence privée, un HLM, une coopérative d'habitation ou encore un appartement dans une tour d'habitation. Alors, il faut donc être en mesure de centrer le réseau autour de ça. Et ça, qu'est-ce qu'il faut pour centrer le réseau autour du domicile? Il faut, d'une part, des soins de santé de première ligne qui sont accessibles et efficaces, donc une organisation de santé de première ligne Et la tendance actuelle des groupes de médecine de famille, des cliniques réseau, de la prise en charge d'une population par des médecins de famille est un pas dans cette direction-là pour se doter de soins de première ligne plus efficaces. Il faut aussi mieux coordonner les services. C'est facile de coordonner les services à l'hôpital. Hein? Tout le monde, on est dans une chambre, tous les professionnels sont dans l'hôpital, et donc la coordination est presque automatique. Le domicile, c'est un milieu plus complexe à coordonner. Plusieurs intervenants, plusieurs organisations, plusieurs organismes, plusieurs secteurs qui interviennent. Donc, ça nécessite une coordination beaucoup plus fine des services et une intégration des services. Et il y a des expériences intéressantes où j'ai eu le privilège d'être associé qui ont développé des modèles de services intégrés autour d'un guichet unique, d'une voie d'accès unique au service, de gestionnaires de cas qui procèdent à l'évaluation des besoins et qui s'assurent que la personne reçoive le bon service au bon moment par la bonne organisation. Ceci est facilité par des aides comme des outils d'évaluation qui sont communs à l'ensemble des services pour qu'on ne répète pas à chaque fois des évaluations redondantes et aussi par des systèmes de transmission de l'information, des dossiers cliniques informatisés qui sont des supports à l'intégration des services extrêmement puissants. Il faut finalement, dans un système de santé centré sur le domicile, qu'on puisse être en mesure de donner des services à domicile. Actuellement, l'État répond à 10 % des besoins à domicile. Vous allez me dire, est-ce que l'État doit répondre à 100 % Non, je ne pense pas. Mais entre 10 % et 100 % il y a un mi-chemin qu'il serait important d'atteindre. L'insuffisance des services de soins à domicile fait en sorte actuellement que la seule alternative lors d'une perte d'autonomie, c'est souvent l'hébergement en institution, avec tout le caractère artificiel, tout le déracinement qui est associé à l'institutionnalisation. Alors, il faut absolument être en mesure d'augmenter de façon significative les soins à domicile. Et on peut estimer que pour vraiment avoir un effet, pour passer de 10 % du soutien de l'État en soins à domicile à 40 % qui m'apparaîtrait être un seuil minimal, il faudrait une injection de 400 millions au moins dans le budget des soins à domicile. Pas 30, 40 millions, 400 millions. Vous allez me dire, c'est beaucoup, 400 millions? C'est la moitié, même pas, d'un point de TPS qu'on n'a pas eu le courage d'aller récupérer. On a décrié le déséquilibre fiscal pendant 10-15 ans, peu importe les partis politiques. Le fédéral se retire d'un champ de taxation. Deux points de TPS, c'est 2,8 milliards de dollars pour le Québec, juste pour le Québec. Le fédéral se retire, on ne prend pas le champ. On ne prend pas cette opportunité extrêmement intéressante d'être capable d'investir dans les soins à domicile, d'investir dans notre système de santé pour en améliorer l'accès. Il faut absolument être en mesure de prodiguer aux gens qui le souhaitent, qui souhaitent demeurer à domicile, les services dont ils ont besoin. En fait, il faut changer notre conception des services. Actuellement, si on veut avoir des services, il faut aller vers les services. Il faut changer ça et faire en sorte que les services aillent à l'individu. Et qu'on n'ait pas besoin de déraciner les gens lors d'une perte d'autonomie pour que la personne puisse recevoir les services dont elle a besoin. Et ça, c'est un changement majeur dans le système de santé qu'on doit imprimer. Le soutien à domicile, c'est aussi respecter l'intervention des proches aidants. On considère beaucoup trop souvent actuellement les proches aidants comme étant des ressources qu'on peut exploiter dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Il faut aussi changer notre conception et considérer les proches aidants comme étant des partenaires qui peuvent poser leurs limites, des partenaires qui sont impliqués dans les décisions concernant leurs proches, des partenaires qui vont doser la façon dont ils souhaitent pouvoir être impliqués dans le soin à leurs proches. Il faut aussi considérer les proches aidants comme des clients, bien souvent. Des clients qui souffrent, des clients qui vivent un fardeau, des clients qui vivent de la détresse et pour qui on doit évaluer les besoins et mettre en place le soutien nécessaire. Il faut aussi, à mon avis, changer le financement de la perte d'autonomie. Actuellement, là, il y a toutes sortes de programmes de crédit d'impôt pour les aidants naturels, de crédit d'impôt pour invalidité, de crédit d'impôt pour le maintien à domicile, en passant un crédit d'impôt. C'est peut-être une belle stratégie fiscale pour encourager les investisseurs à faire des investissements de la recherche et du développement, mais c'est une mauvaise façon de financer des programmes de solidarité sociale. Pourquoi? Parce qu'un crédit d'impôt, c'est inéquitable. Ça profite beaucoup plus aux gens plus fortunés, aux gens qui ont des meilleurs revenus, qu'à des gens qui sont moins fortunés. En fait, un crédit d'impôt, le mot le dit, il faut d'abord payer de l'impôt. Et quand on ne paye pas d'impôt, on n'a pas de crédit. Alors, c'est un moyen qui est inéquitable. Et il y a toutes sortes d'autres programmes d'exonération financière pour le soutien à domicile, des programmes d'allocation directe, de chèque emploi-service, toutes sortes de programmes. Et comme disait ma mère, une chatte perdrait son chat parce que les personnes aînées et leurs proches ne s'y retrouvent pas. Puis c'est rendu qu'il faut avoir des conseillers pour être capable de guider les gens, pour qu'ils soient capables d'aller chercher ces différents moyens de financer la perte d'autonomie d'un de leurs proches. Alors, il faut mettre en place un système qui soit équitable sur le plan du revenu et qui soit équitable aussi sur le plan des besoins de la personne. Actuellement, pour vous donner un financement ou pour vous donner un service, on ne tient pas compte du besoin de la personne. En général, les CLSC, là, ils vont très peu moduler la quantité de leurs services par rapport aux besoins. Alors, ce que j'ai proposé, c'est de mettre en place une prestation de soutien à l'autonomie. Qu'est-ce que c'est une prestation de soutien à l'autonomie? C'est un montant qui est établi sur la base du besoin de la personne. Les incapacités, et on les évalue déjà, les incapacités des personnes, on a des instruments qui sont déjà utilisés dans le réseau qui nous permettent de dire, avec tel niveau d'incapacité, ça coûte tant pour s'occuper de la personne, lui prodiguer les services. Alors, cette prestation de soutien à l'autonomie pourrait être utilisée en nature, lorsque la personne reçoit des services dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, des services publics ou encore des services du CLSC, et on pourrait se servir de cette prestation pour financer les établissements publics. Ou encore, selon le choix de la personne et de ses proches, cette prestation-là pourrait être donnée en espèces pour que la personne puisse s'acheter des services d'une résidence privée, par exemple, puisse s'acheter les services d'une entreprise d'économie sociale, d'un organisme communautaire, ou encore dédommager un proche aidant qui fait le travail, qui est prêt à le faire. Et cette prestation donc, permettrait, tout en étant plus équitable sur le plan de la réponse aux besoins, de rendre les gens plus engagés dans la solution à leurs problèmes, de pouvoir choisir le panier de services qui correspond à leur volonté. Finalement, et l'expérience de la consultation publique me l'a démontré, il est grandement temps au Québec qu'on se dote d'une politique des aînés, d'une politique sur le vieillissement, d'une politique de sagesse. Une politique, c'est une vision de ce qu'on veut comme société, de ce qu'on veut comme société pour demain, une société qui intègre, qui fait la place, qui leur revient aux personnes âgées. Une politique, c'est une vision, mais aussi des valeurs qui guident un plan d'action et qui va transcender les ministères. Plusieurs ministères sont impliqués dans les conditions de vie des aînés. Et il faut donc avoir des principes qui transcendent les petits gestes souvent contradictoires de différents ministères pour solutionner des problèmes ponctuels. Une politique, ça nous permet d'avoir une vision globale, de faire en sorte que tout le monde s'aligne au niveau des ministères avec la même vision, avec les mêmes orientations stratégiques, et non seulement au niveau du gouvernement provincial, mais aussi au niveau des gouvernements municipaux, parce que les villes sont très impliquées dans les conditions de vie des aînés en termes d'urbanisme, en termes de transport en commun, en termes de logement. Il y a toute une vision au niveau de la cité qu'il est nécessaire d'avoir pour ménager des villes, des villages qui sont appropriés pour des personnes âgées. Une politique des aînés, ça guide un plan d'action dont il est absolument important de se doter au Québec. Il faut absolument exploiter, dans le bon sens du terme, la sagesse des aînés, s'assurer que les aînés continuent à avoir une contribution significative à l'essor économique et au développement de ce pays. Il faut être en mesure de faire du Québec un pays ouvert sur le monde, un pays fait pour le monde, un pays pour tout le monde. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Je suis certaine que dans la salle, il y a des gens qui se demandent, il va être candidat pour quel parti? Quand? Quand est-ce qu'il va être candidat? Alors, la vision que le Dr Hébert vient de vous proposer, c'est aussi nous, les électeurs, on est des citoyens, c'est aussi nous qui allons pouvoir décider si on adhère à ça. Vous êtes ici, vous pouvez partager vos idées. Juste avant de vous donner la parole, je vais demander à nos invités de partager leur vécu, leurs idées, non seulement sur ce que le docteur a dit, mais aussi par rapport à leur vie à eux. Et vous savez que c'est des gens qui ont des vies bien particulières. Madame Jeannine Suteau, vous la connaissez comme comédienne. C'est une femme qui a une carrière remarquable. Elle vient de gagner un prix, d'ailleurs. Vous le savez sans doute, la semaine passée, elle a gagné le prix Québécois. Bravo. Mais c'est un hommage qui s'ajoute aux autres parce que vous en avez reçu beaucoup ces dernières années. J'ai appris, moi, en lisant votre biographie, que vous aviez joué dans plus de 200 pièces de théâtre. Alors, c'est quelque chose quand même dans une vie d'avoir 200 pièces de théâtre. Et donc, Madame Suteau, quand je lui ai parlé avant, elle, bien sûr, elle assume son rôle de comédienne, femme de théâtre, de cinéma et de télévision, mais c'est aussi une femme impliquée, c'est une femme qui s'intéresse à des questions sociales, la question de la déficience, la question de l'Alzheimer. Elle a une amie dans la salle avec qui elle partage ces préoccupations-là, à qui je donnerai la parole un peu plus tard, quelqu'un qui fait partie du baluchon d'Alzheimer. Il y a aussi dans votre vie de mère et de grand-mère, et c'est quelque chose d'important pour vous. On en parlera donc avec elle. Monsieur Languirand, vous le connaissez comme l'animateur de Par quatre chemins, mais il a ouvert bien plus que quatre chemins, Jacques Languirand. Il a été un auteur. Savez-vous qu'en 2001, il a gagné un prix pour une pièce qui n'avait même pas été publiée en Grèce? Ça, c'est Jacques Languirand. Alors, la Fondation Onassis qui donne un prix pour une pièce qui n'a pas été publiée, qui s'appelait Faust et les radicaux libres, hein, c'est ça? En 2001. Il vient de publier ce livre-là que je suis en train de lire, qui se mange par petites bouchées, qui nous aide à réfléchir. Et je dirais que ça, c'est une particularité de Jacques Languirand, de nous aider à réfléchir. Ça s'appelle, il a fait ça avec son ami Jean Proulx, et ça s'appelle Le Dieu cosmique. C'est aux éditions Le Jour, et c'est passionnant. C'est vraiment votre domaine d'intérêt, ce que l'on peut entendre quand on vous écoute par quatre chemins. Et je dirais en terminant que... vous allez me dire si c'est vrai que vous avez le record mondial de longévité à la même émission, le même animateur à la même chaîne?
J'en ai bien peur.
Avez-vous postulé pour le Guinness?
Écoutez, je vais vous dire une chose qui est très curieuse. Vous savez,
prenez votre micro à côté.
Ah bon,
c'est vrai qu'il y a une voix quand même, c'est des gens de théâtre, hein, ça, ils n'ont pas l'habitude du micro.
Ah, tiens, ça part, ça. Quand on m'a proposé de m'occuper d'avoir une émission, c'était pour une durée de 3 mois, peut-être 4, comme on avait dit.
On voit où est-ce que ça vous a mené.
Alors, j'ai fait 37 ans avec. Je n'avais pas prévu ça. Je l'ai fait et j'ai vieilli dans cette émission-là.
Ouais.
Et j'ai, c'était une expérience très intéressante de ce point de vue-là.
Ouais,
oui.
Ouais.
D'essayer de continuer d'être utile, mais d'être utile en tenant compte toujours en même temps de ce que j'avais pris de l'âge et que je devais apporter quelque chose que je n'apportais pas avant et qu'il fallait que j'en fasse état, etc.
Ça vous a changé.
Ça m'a changé.
Oui, c'est pas qu'en faisant l'émission, vous avez vieilli avec votre émission.
J'ai vieilli avec l'émission et puis, oui, je continue de vieillir encore avec l'émission. Mais c'est très agréable parce qu'il y a un rapport avec le public et que cette émission m'a permis d'avoir, mm-hmm. qui est extrêmement chaleureuse et très positive. Et j'apprends beaucoup de cette façon-là également.
Oui, oui. Madame Suteau, aussi, vous avez, dans votre carrière, évolué. Donc, vous avez, à votre âge, encore des rôles. On vous demande encore d'être présente sur la scène. Vous considérez comme chanceuse, mais vous avez, vous aussi, évolué. Vous avez choisi de vieillir en ne cachant pas votre âge et en continuant votre métier.
Ben, vous savez, on ne choisit jamais de vieillir.
Non,
ça vous arrive comme ça.
Ça commence à 0 année, même. Hein?
Et heureusement, ça nous arrive graduellement, ce qui atténue les choses quand même. Alors, mais on n'a pas le choix.
Mais diriez-vous que votre métier vous a changé? Si le métier de Jacques Languérand l'a changé, est-ce que votre métier à vous, de comédienne, vous a changé?
Non. Je ne trouve pas. Moi, j'ai la chance, même si on ne veut plus que j'emploie ce mot-là, parce que je me rejette toujours là-dessus, parce que c'est vrai, moi, j'ai la chance d'avoir fait, d'avoir pu faire un métier que j'aimais avec passion, donc que j'aime toujours avec la même passion. Donc, j'ai la chance qu'on me demande encore. Alors, et je dois avoir un fond de bonne santé. Je le pense. Hein? Bon. Alors, donc, je suis extrêmement chanceuse et j'espère quand même avoir l'intelligence à un moment donné d'arrêter.
Vous êtes-vous donné un âge limite? Vous êtes non. Dit à 90, j'arrête?
Non, ça c'est facile à dire. Non. J'espère avoir l'intelligence, mais en général, on ne l'a pas. J'espère que j'ai autour de moi ma famille qui va me dire non, là, c'est assez, vraiment, c'est ridicule.
Non, vous comptez sur les autres. Vous ne prendrez pas la décision vous-même.
Ben non, mais je connais un petit peu, j'allais dire, la nature humaine. Quand on aime quelque chose, on se connaît pas tellement, hein, mais on se connaît mieux en vieillissant. Alors ça, c'est un des avantages, je trouve, hein, Jacques?
Oh, oui, tout à fait.
C'est un avantage de se connaître un peu mieux, un peu mieux. Puis autour de moi, je pense que j'ai des gens qui sont capables de m'aimer assez pour me le dire. Mm-hmm. Ça, c'est important.
Comptez-vous là-dessus, M. Languérand, qu'un jour, quelqu'un va vous dire, « Jacques, tu es rendu à 82, là, tu as-tu pensé un peu? » Pensez-vous qu'un jour, quelqu'un va vous dire ça?
On ne dira pas ça parce qu'on sait très bien que j'y aurais pensé déjà.
Ah, donc
parce
vous,
que
vous,
ça ne se passe pas nécessairement toujours comme ça. Je me suis vraiment posé la question parce que moi, vous savez, dans mon évolution, au fond, ce qui m'a guidé les dernières années, en tous les cas, je dirais depuis peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, comme ça, c'était de voir comment... Je me suis dit qu'il fallait que je sois utile. À être utile et agréable, j'ajoute, hein. Voilà. Et alors, agréable, je ne sais pas si je suis toujours agréable, puis je ne sais pas non plus si je suis toujours utile, mais en tous les cas, je cherche, si vous voulez, à lire les livres qu'il faut lire. Par exemple, la radio m'a été précieuse pour ça, à chercher les livres qui sont susceptibles de servir à quelque chose, d'informer les gens sur quelque chose, en même temps de les amuser aussi dans certains cas, etc. Vous comprenez? On se travaille pour les gens qui se donnent la peine de m'écouter à la radio. Et je faisais un peu la même chose à la télévision. Mais à la télévision, j'étais plus jeune, donc j'étais moins sensible à ça. J'avais plus envie d'être agréable que d'être utile. Mais maintenant, je suis utile par défaut. Pour ainsi dire.
Quand on vieillit, quand on est dans des milieux publics comme vous deux, quand on vieillit, nécessairement, autour de soi, on rencontre des jeunes. Il y a donc un mélange de générations qui se fait dans votre travail, dans votre vie personnelle aussi.
Oui, mais je trouve que c'est important pour vous. Hein? C'est absolument nécessaire et c'est ça qui nous tient en vie. Enfin, ça dépend des caractères de chacun, mais moi, j'ai besoin de, dans une distribution, j'espère que je ne les ennuie pas, mais j'ai besoin d'avoir des jeunes. Moi, je vais beaucoup au théâtre, autant dans les grands théâtres sérieux que dans les petites salles, pour voir la relève, ça m'intéresse infiniment. Donc, ça rejoint un peu ce que Jacques disait, pas parce que je leur suis utile, parce que je suis vraiment contre les conseils. Toi aussi, Jacques, j'en suis sûre. D'ailleurs, personne ne suit les conseils de personne. Hein, ça, c'est certain, ça. Mais ce que Jacques disait, c'est très, très important d'essayer. On ne réussit pas toujours, mais d'essayer d'être utile. Ça, c'est une chose... partager, c'est la même chose. Partager. C'est très, très important. Et moi, je fais partie, je suis la marraine d'un organisme qui correspond beaucoup, docteur, à ce que vous avez dit, puisque garder les personnes malades chez eux, c'est une chose importante, à condition actuellement d'être aidée. Donc, moi, je fais partie, je suis la marraine du Baluchon Alzheimer, qui est un organisme unique au monde, qui vient en aide aux aidants naturels en leur donnant pas une heure, deux heures de répit, mais les vacances pour les aidants naturels. C'est ce qu'on appelle, comme les parents d'enfants déficients, qu'on appelle des répits. Et le baluchon donne une semaine, deux semaines de répit, c'est-à-dire que les baluchonneuses prennent tout en charge, toute la maison, et que les aidants ou les aidants naturels s'en vont en vacances. Ça, c'est une chose qui me touche infiniment et que je trouve extraordinaire. Enfin, ça fait 8 ans et j'espère que ça va durer très longtemps.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un travail énorme.
Oui, oui. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on se rend utile. Si c'est un des rôles des personnes âgées, est-ce que c'est un des rôles des personnes âgées? Tout d'un coup,
d'après moi, oui. D'après moi, c'est un rôle. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait là?
Vous comprenez? Ben non, mais il y a d'autres. Je ne sais pas.
Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut regarder ça comme ça. Il faut s'apercevoir qu'il faut être associé à la société, pour ainsi dire.
Mais par exemple, vous êtes des artistes. Hein? Des artistes, vous avez une âme particulière. Vous jouez au théâtre, vous faites de la radio, vous écrivez des livres, vous êtes un homme de théâtre aussi.
Oui.
Alors, vous avez votre univers à vous. Vous pourriez vous dire, mon univers me passionne. Vous l'avez dit, votre univers vous passionne. Mais là, en plus de ça, vous êtes utile. Vous voulez être utile. Et ça, c'est l'âge qui fait ça.
Il y a des moments, d'une certaine façon, oui, si vous me permettez, parce qu'il y a des moments où tout à coup, on se dit, aussi en prenant de l'âge, ça, je ne peux plus le faire ou je peux moins le faire.
Oui.
Ou il n'est pas nécessaire que je le fasse. Alors, dans ce cas-là, il y a, si vous voulez, le chemin devient un peu plus étroit. Ça ne veut pas dire que c'est pénible pour autant. Mais vous savez, il y a des choses, par exemple, j'ai la mémoire qui flanche un peu, alors je pense que j'aurais de la difficulté à retourner à faire des expériences de théâtre qui soient très exigeantes de ce point de vue-là, vous comprenez, parce que bon. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut profiter des, j'allais presque dire, des défauts qu'on a, hein, pour tous, pour s'orienter. Moi, au fond, c'est le regard des autres qui a fait de moi que j'ai vécu d'une façon que je crois être intéressante. Parce que j'ai vu que tout à coup, je pouvais être intéressant. Là-dessus, il faut avoir des nuances, cependant. Il ne faut pas, vous le savez tous, il n'y a pas de secret là-dessus, il ne faut pas leur dire toujours quoi faire. Parce que d'abord, on ne le sait pas. D'abord, on ne le sait pas. Ensuite,
ils ne nous écouteront pas.
Hein, ils ne nous écouteront pas du tout, etc. Mais il y a une façon d'être, d'agir d'une certaine façon. Puis moi, j'ai une chance, c'est que, vous savez, je suis... On dirait qu'il y a deux types humains. Il y a les Apolliniens, puis il y a les Dionysiens. Les Apolliniens sont plus ordonnés, sont plus organisés, etc. Puis il y a les Dionysiens qui sont un petit peu plus voyous, pour simplifier le discours.
Vous êtes quoi, vous?
Moi, je suis voyou. Je suis un Dionysien. Je suis un Dionysien. Alors ça doit dire que j'ai pas eu à faire d'efforts pour ça.
Okay.
Mais je dois dire que les jeunes ont une faiblesse pour les Dionysiens.
Ouais.
Ça les intéresse. Ouais. Ils se disent, il est marrant, lui. Il prend un coup à l'occasion. Il fume un joint de temps en temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas exagérer non plus. Excusez-moi de dire. Ne répétez pas ce que je dis ici.
Il n'y a pas de policier dans la salle. Hein? Donc voilà, on parlait d'être utile. En vieillissant, l'utilité, c'est une des choses. Le docteur Hébert a dit tout à l'heure qu'on ne reconnaît pas suffisamment l'utilité dans la société. Et on a des barrières. Les barrières, ce n'est pas que les syndicats qui sont toujours le regard. On porte toujours le regard vers les syndicats. Mais les syndicats sont une expression d'organisation parmi d'autres dans la société. Quand vous nous proposez cette belle vision-là, que les services vont aller vers les gens, qu'on va arrêter d'être juste dans la technologie, et je vous rappelle quand même qu'on est en train de construire des hôpitaux et que les coûts, c'est des coûts des machines plus que les coûts des humains. Donc, forcément, on est dans le béton et la machine. Hein? Donc, renverser la vapeur, ça ne sera pas évident. Comment les personnes, comment les personnes qui sont les personnes qui vont vieillir pourront aider à changer, à renverser cette vapeur-là? Parce que ce que vous nous proposez, Dr Hébert, c'est un changement radical, c'est une petite révolution à l'intérieur d'un système de santé. Est-ce qu'on est dans une période où on pourra faire des révolutions? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais... Ben moi, je crois que oui. Puis J'avais pas besoin de diapo pour mon propos tout à l'heure. Il y a des illustrations qui sont encore plus parlantes sur la scène. Mais vous avez là, à la limite, ce que pourrait ressembler la retraite. En fait, elle n'existerait plus parce que les gens continueraient à avoir leur implication, leur vie active, et on leur permettrait de continuer à faire leur travail comme Mme Souteau, M. Languérand.
Parce que eux, c'est des artistes, c'est ça. Vous n'avez pas eu à prendre votre retraite parce que personne ne vous l'a dit, prenez votre retraite.
Oui, voilà.
mais les artistes dans une société...
Non plus, je vous dirais, de toute façon, je ne me suis pas tellement aperçu que je vieillais jusqu'à un certain âge.
Non?
Et puis aussi, il y a une autre chose, c'est que, bon, le hasard, les accidents de la vie, les trucs, etc., c'est que j'ai eu la chance, à un moment où j'espérais que je resterais toujours dans cette même forme-là, à trouver une nouvelle conjointe, la première étant décédée, et puis qui est plus jeune que moi. Alors là, il faut être prudent. faut essayer d'être à la hauteur, d'une certaine façon. Et puis n'être pas trop dépendant de l'autre, si vous voulez. Mais il se trouve que dans mon cas, l'autre a une tendance à occuper beaucoup de place dans l'organisation de la vie, vous comprenez?
C'est-tu drôle,
Et je prends l'habitude de m'y faire. Ouais. C'est terrible. Bon, je commence à ramollir comme vieux, d'une certaine façon.
Oui. Madame Souteau, quand on est une grand-mère, on a des petits-enfants. Quel rôle vous jouez dans votre vie privée comme mamie? Est-ce que vous êtes une mamie déchaînée?
Je pense que quand tu vieillis, c'est un cadeau d'avoir des petits-enfants. C'est un merveilleux cadeau. Et je dois dire que ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est pas facile d'être une grand-mère. C'est pas facile parce que il faut que tu sois présente. C'est-à-dire qu'il faut surtout que tes petits-enfants sentent que tu es présente. Mais être présente sans déranger et sans embêter les parents, là, arrangez-vous. Mais c'est faisable, c'est très faisable, j'en suis sûre. Et j'espère que je le fais. J'espère, je le pense. En somme, il faut, comme dans tout, user d'un certain bon sens. Ce n'est pas toi qui les élèves, les enfants. Toi, tu es là pour autre chose. Donc, tu n'as pas à te mêler de la façon dont les parents élèvent les enfants. Moi, Mireille me dit toujours, non, toi, tu es merveilleuse. Tu ne parles pas, mais tu as des yeux. Bon, ben là aussi, il faut faire attention. C'est certain. Mais les enfants, il faut qu'ils sentent que tu es là. Moi, ils le savent. D'abord, je leur dis entre eux et moi, naturellement, pas devant les parents, ça ne les regarde pas. Mais je leur dis, n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution, toujours une solution. N'oubliez pas que je suis là pour des niaiseries et pour les choses graves. Vous avez une grand-mère. Il m'appelle Nonna.
Nonna?
Je n'ai pas grand-chose d'italien, même si mon père était italien. Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est un souvenir, parce que moi, je n'ai pas connu ma grand-mère italienne, mais mon frère me parlait souvent, qui avait 9 ans de plus que moi, mon frère me parlait souvent de Nonna. Donc, j'ai dit, vous allez appeler monsieur, madame, Lespine, papier, mamie. Et ce souvenir m'est revenu. Et puis moi, vous m'appelez Nonna. Alors... N'oubliez pas que vous avez une nonna qui est là pour tout, toujours. Comme ma fille s'en va demain à Boston, je lui souhaite un bon voyage, je vais aller lui porter des petites choses en papier américain. Pour lui dire un bon voyage et pour lui dire dépêche-toi de revenir et que mon amour t'accompagne. Oui. C'est très, très important. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses comme ça.
Et c'est dans ce sens-là que vous dites que vous ne donnez pas de conseils, que vous êtes contre donner des conseils. Au lieu de donner des conseils, vous donnez de l'argent. Vous dites je suis là, je t'attends.
Ah, mais je ne les achète pas!
Non! J'ai pas voulu dire
absolument ça. Pas, mais c'est important, l'argent.
Oui, oui. Hein? Mais vous me faites dire ce que je veux pas dire. Hein. Vous savez ce que je veux dire. Vous ne donnez pas de conseils, vous donnez autre chose.
Je leur dis que je les aime, voilà. Que mon amour est là toujours. Mon amour est autre chose. mais donc, je ne leur donne pas de conseils. Et puis, une chose importante quand on est grand-parent, il faut se rappeler comment on était. Moi, j'étais infiniment désagréable à mon adolescence. Et alors, je le dis très souvent, j'étais désagréable, et je retrouve, tu sais, les enfants, ça, je ne sais pas moi, 14-15 ans, même plus tard, ils ne veulent pas qu'on leur pose 36 000 questions et ce que les parents font, avec raison probablement, mais il y a une limite, tu sais. Alors moi, non.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Dr Hébert, quand vous entendez des personnes plus vieilles que vous raconter leur vie personnelle, leurs idées, leur manière de changer? Comment vous voyez votre propre vieillesse comme médecin qui ne prendra pas de retraite?
Oh mon Dieu!
Non, mais vous ne prendrez pas de retraite, là.
L'un de mes fils qui est dans la salle nous a annoncé la fin de semaine dernière qu'on allait être grand-papa.
Alors,
ça y est. Moi aussi, je vais vivre ça, Mme Citeau, et j'ai hâte. C'est excitant parce que la relation des grands-parents avec les petits-enfants est très différente de celle des enfants avec les parents, en fait.
C'est complètement différent.
Parce qu'il n'y a pas ces limites qui doivent être établies et le rôle est fort différent. Et je pense que ce sera un rôle que je vais apprécier beaucoup.
Ah, ben c'est merveilleux, c'est un cadeau du ciel. Merci, mon Dieu.
Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut être plus à l'écoute. Et les liens intergénérationnels, et vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Citeau, sont extrêmement importants parce qu'on a tendance, dans certaines sociétés, comme aux États-Unis, par exemple, à ghettoiser les personnes âgées dans des quartiers, dans des villes. Et là, on perd toute la richesse des liens intergénérationnels. On perd toutes ces opportunités d'être capable de bénéficier de l'enseignement et des conseils non dits. Parce qu'il y a des moyens de donner des conseils, et je suis sûr que vous savez ce que je veux dire, sans donner des conseils, mais par ce que l'on fait, ce que l'on est, être une source de conseils, une source d'inspiration,
une source de
motivation.
Mais c'est dans ce sens-là que je disais, voilà, tout à l'heure, qu'ils étaient des modèles pour nous. Alors, M. Languérand, vous, c'est des idées que vous aimez partager.
Oui.
Vous, le monde des idées vous fascine.
Oui.
Donc, c'est ça que vous partagez avec les plus jeunes. Quand on vous demande d'être porte-parole de la semaine de la journée de la Terre et que ça vous embarque à l'âge que vous avez, que ça vous emmène dans un tourbillon d'activités fatigantes pour vous, c'est qu'on veut vous entendre partager vos idées. Et c'est dans ce sens-là que vous dites que vous voulez être utile.
Oui, dans ce sens-là. Et puis, de toute façon, il y a un bon moment que j'ai accepté l'idée que j'étais un communicateur et que je devais communiquer. Voilà. J'en ai fait une profession, j'en ai fait une utilité. Et puis, je suis à la disposition, de ce point de vue-là, je suis à la disposition des gens. C'est d'être curieux de s'exprimer comme ça, mais mes petits-enfants ne viennent pas me voir aussi souvent que je le souhaiterais parce que l'une fait ses études à Sherbrooke, par exemple, puis l'autre, etc. Et je souhaiterais les voir plus souvent, je souhaiterais partager davantage avec eux, mais ils sont très ouverts à ce que j'ai à leur apporter, mais j'apprends beaucoup d'eux aussi. Et ils sentent très bien que j'ai un intérêt à bavarder, à discuter avec eux pour savoir où eux se situent également.
Au niveau de leurs idées.
Oui, de leurs idées. Et voir, je n'ai pas nécessairement envie de leur communiquer tout ce que je pourrais peut-être leur communiquer, je ne sais pas. Ou aussi bien, je pourrais leur dire, écoutez donc mon émission, quand j'ai le temps.
La chose à ne pas faire. Non, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on est grand-parent. Tu sais, souvent, on dit, oh non, ça les embête. Ce n'est pas vrai, ça. Ils adorent qu'on... D'ailleurs, ils te le demandent. Comment tu faisais, toi, à tel âge? Qu'est-ce que tu faisais, toi, à tel âge? Tu étais où? Alors, non, ça les intéresse, c'est sûr, ça. Il ne faut pas leur faire des conférences, ça, non. Jamais.
On va laisser ça au docteur Hébert.
Mais c'est tellement merveilleux. Alors moi, je ne sens pas ces années difficiles d'adolescence, mais je sais très bien par où ils passent. Mais je veux dire, je ne le sens pas avec eux. Et puis, il faut... Là, Jacques, ce n'est pas pareil, parce que toi, ils ne sont pas dans la même ville. Et puis, les enfants, vous savez, comme c'est difficile, il faut quasiment prendre un rendez-vous avec eux, parce qu'ils ont des cours de ça, de ci. Non, je ne peux pas. Non, tel jour, j'ai ça. Il faut insister.
Ah ouais, c'est ça.
Moi, j'ai envie de les voir. Il faut que je les voie. Et c'est parce que Tu sais, on dit toujours, mais la qualité, quand on les voit, c'est nécessaire. Oui, mais la quantité, le temps, ça compte. Et puis, c'est nécessaire. Ils ont besoin de nous. Et nous, Dieu sait qu'on a besoin d'eux.
Mm-hmm. Un jour, je rencontrais comme ça Gratien Gélina. Et il me disait, il y a plusieurs années de ça, il me disait, est-ce que tu as un ordinateur, toi? J'ai dit non, pas encore. J'ai dit, j'en aurai, etc. Mais j'ai dit, toi? Il dit, oui, oui. J'ai dit, qui? Ben, tu apprends ça de toi-même? Non, non, j'ai mon petit-fils qui m'apprend ça.
Ben oui,
sûrement. Alors, voyez-vous, il y a un échange extraordinaire. On peut profiter de ça également, dire ces jeunes-là peuvent nous apporter quelque chose. Et ils ont envie de nous apporter quelque chose. Et alors, à ce moment-là, le canal est ouvert. Le canal de la communication est ouvert. Si c'est nous qui leur demandons, apprends-moi donc ça. Puis alors, il y a tellement de choses nouvelles dans le monde maintenant, vous comprenez, que moi, malgré que je sois dans un milieu, si vous voulez, très, très informé, très, très de communication, mais on est dépassé. Et alors, les jeunes, justement, ont la bonne partie, c'est-à-dire de dire, ah ben, faut que je t'apprenne ça, grand-papa, il faut faire telle chose. Ça se fait plus comme ça. OK, parfait, très bien.
C'est
comme ça que ça se passe. Et c'est à ce moment-là, vous comprenez, que peut-être il y aurait des suggestions à leur faire. Mais à vrai dire, ce n'est pas tellement les suggestions dont ils ont besoin. Je pense que c'est d'avoir le comportement juste.
Et ça, vous êtes un modèle pour
quand
ça?
Je ne sais pas, je dirais jusque-là, mais il me semble qu'il faut avoir un comportement, c'est surtout le comportement qui te surveille.
Donc, vous, est-ce que c'est un devoir que vous vous donnez? Vous dites, il faut que j'ai un comportement juste, je sers de référence?
Non, j'espère que j'ai mon comportement juste sans obligation.
Non, vous êtes Dionysos, hein, alors... Votre comportement juste dans le voyouius.
Oui,
hein, vous avez cette folie-là que vous voulez continuer d'exprimer.
Oui, absolument. Et puis, mais ça repose toujours sur alors, qu'est-ce que tu as appris, d'où ça vient, etc. Puis explique-moi comment ça se passe. Et toujours. Puis à ce moment-là, on peut commencer peut-être à intervenir si les circonstances sont favorables. Puis c'est tout. Il ne faut pas forcer les choses du tout. Il faut soi-même aussi avoir un comportement qui soit, si vous voulez, relativement juste pour un Dionysien, disons.
Mais du moment que c'est sincère, finalement. Ce que j'entends chez vous, c'est dans le fond, il faut que vous soyez sincère et fidèle à vous-même.
Absolument.
C'est ça, au fond.
Être sincère et fidèle à soi-même, vous
voilà,
l'avez.
Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire ou à poser comme question? Parce que dans le fond, ce qu'on vous demande, ce que je demande à mes invités, c'est qu'est-ce que c'est mieux vieillir et dans quelle société on veut mieux vieillir? Est-ce qu'on veut des communautés gardées, comme l'a dit le Dr Hébert, où on va être en sécurité parfaite, mais sans moyen de communication avec d'autres générations? Est-ce qu'on veut des services de santé? Est-ce qu'on veut faire l'effort individuel de se garder en santé? Parce que ça, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes prête à faire un effort? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous pensez que des modèles comme Mme Souteau et M. Languérand sont des modèles inspirants? Des idées comme les idées du Dr Hébert sont des idées inspirantes? Alors, si vous voulez prendre la parole, Dominique se promène avec un micro. Vous n'avez qu'à lever la main. Il y a un micro qui est là. Si vous voulez vous lever et vous mettre derrière le micro, on vous entendra. En attendant, puisque personne ne se précipite.
Puis en même temps,
vous savez que cette... Oui?
En même temps, on peut demander s'il y a des gens... On a lancé des invitations à toutes sortes d'organismes d'être présents qui peuvent aussi nous donner
merci.
Leur exemple de ce qui est fait
Par exemple,
chez eux.
Est-ce que tu ne m'as pas dit qu'il y avait Sœur Madeleine qui était là? Qui est Sœur Madeleine? Bon, ben tiens, Madame Sœur Madeleine, est-ce que vous êtes toujours religieuse?
Oui.
Bien. Alors, vous avez une maison qui s'appelle la Maison des Parents. Voulez-vous venir au micro? La Maisonnette des Parents, qu'est-ce que ça mange en hiver?
Alors, je vais vous parler des débuts de la Maisonnette des Parents.
OK.
D'abord, je me suis trouvée dans le quartier Petite Patrie comme animatrice de pastorale dans une école primaire. Et comme j'étais responsable de la préparation des enfants aux différents sacrements, donc j'invitais les parents à se présenter à l'école, bien sûr, pour d'abord les connaître et ensuite échanger sur la matière de la préparation aux sacrements. Et j'avais 5 parents sur une trentaine qui se présentaient.
Ça, c'est en quelle année? Ça fait combien de
temps? En 1980.
Ah, quand même.
Ça fait déjà 28 ans.
Oui.
Alors, finalement, j'ai décidé d'appeler les parents et de leur offrir que j'aille les rencontrer, puisqu'ils n'avaient pas pris le temps ou eu le temps de se présenter. Mm-hmm. Alors, j'ai été bien accueillie partout et j'ai écouté, bien sûr, l'histoire familiale de chaque famille. Mais avant de quitter, je leur demandais, parlez-moi donc d'une de vos réussites. Alors, bien sûr, la question était assez difficile parce que, comme avec les enfants, quand on leur demande de nous donner trois qualités, là, c'est très, très difficile, ça prend beaucoup de temps.
Mais les défauts, c'est facile.
Les défauts, hein? Oh mon Dieu, une kyrielle de défauts. Alors, finalement, une maman me dit, bien, regardez la robe que je porte, c'est moi qui l'ai cousue. Alors, je dis immédiatement à la dame, « Madame, j'ai besoin de vous. Je connais un grand nombre de madames qui aimeraient bien apprendre à coudre. Alors, j'aurais besoin de vous. »
Et tout c'est comme ça que votre maisonnette des parents
Et c'est comme ça, c'est à partir des talents et des capacités des gens qui vivaient beaucoup, beaucoup d'isolement. Ouais. Parce qu'en 1980, il n'y avait pas beaucoup de services dans le quartier Petite Patrie. Alors, je ne savais pas que nous allions fonder un organisme à ce moment-là. Tout simplement, je voulais les amener à l'école pour qu'ils apprennent d'abord à travailler ensemble, à se faire confiance et finalement à les inviter à participer
et
à des ateliers.
Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la maisonnette des parents?
La maisonnette des parents, c'est un lieu d'accueil, de formation, d'écoute, d'entraide et de référence pour les familles de toute culture et de toute condition.
Et est-ce que vous rejoignez des personnes âgées?
Aussi, bien sûr. Nous avons une belle chorale à la maisonnette qui est formée des gens de tout âge, des enfants de 7 ans et plus, et de leurs parents et des grands-parents. Oui.
Merci, Sœur Madeleine. Parce que vous voyez, dans le fond, c'est ce genre d'initiative-là, Dr Hébert, qui va dans la société faire en sorte, vous parliez de réseau communautaire tout à l'heure, c'est un réseau communautaire qu'elle bâtit, Sœur Madeleine.
Et on a eu toutes sortes d'exemples comme ceux-là d'organismes communautaires qui se sont créés spontanément par des personnes âgées qui ont mis au service de la communauté leur talent, comme vous le dites, pour qu'on puisse profiter de ces talents-là. Et je pense qu'il y a toute une culture de bénévolat, d'action communautaire dont on profite actuellement dans notre société et qui est principalement mis en place par des aînés. Et on estimait ça annuellement à une valeur de 3,2 milliards de dollars au Canada. C'est une banque qui a fait cet estimé pour l'OCDE.
Au Canada?
Au Canada, 3,2 milliards. On estime l'action bénévole des aînés à 3,2 milliards. Et donc, c'est une, si on quantifiait ça, si on valorisait ça au taux du marché, là, c'est ça que ça vaut. Alors, s'il y avait une grève des bénévoles au Québec demain matin, là, il y a plein de choses qui arrêteraient de fonctionner. Et
mais
il
voyez-vous,
faut vraiment reconnaître ça.
Ce que vous dites par rapport à ces milliards-là, Mme Souto, autant que M. Languérand, partagez la tâche que Sœur Madeleine fait. Quand vous vous investissez comme marraine au Baluchon Alzheimer, quand M. Languérand s'investit dans le blog, comment ça s'appelle votre blog, là, le nouveau? Là?
Est-ce que c'est le blog?
Le blog.
Comment?
Logos. En tout cas, tapez Jacques Languérand dans Internet. je suis allée voir quand je vous entendais à la radio en parler. Ce n'est pas un site qui était encore ouvert. Mais ce que je veux dire, j'ai peut-être cet exemple-là, mais vous avez le nez partout, finalement, Jacques Languérand.
Oui, mais je voudrais à ce sujet-là vous dire une chose.
C'est des jeunes qui vont vous chercher.
Oui, mais justement, récemment, aussi, il faut avoir une passion. Des passions, comme par exemple Jeannine, Mme Souto a une passion du théâtre. Alors, elle a d'autres passions, bien sûr, mais je veux dire, elle est capable de communiquer ça parce qu'elle l'a, ça ne s'invente pas. Et alors, le problème qu'on a, m'a expliqué un ami récemment, je m'occupe beaucoup actuellement de la question amérindienne, pour des raisons de spiritualité, parce que la spiritualité à laquelle on a travaillé pour la... Dans le livre que vous savez ici, c'est une spiritualité qui rejoint aussi beaucoup celle des Amérindiens. Alors maintenant, on commence à travailler sur ce dossier-là. Mais alors, il y a un ami, Cri, que j'ai rencontré récemment, et puis que j'avais connu comme ça en passant il y a quelques années de ça, et qui est revenu avec ce discours qui a dit « L'erreur chez les Blancs, c'est nous ça, les Blancs. » L'erreur chez les Blancs, c'est qu'il n'y a pas dit ça comme ça, d'ailleurs, je vous dirais, il est plus habile que ça. C'est que vous avez en français le mot « vieux ». Ça n'existe pas en cri, ni dans plusieurs langues amérindiennes. Ça n'existe pas.
Qu'est-ce qu'il dit?
C'est le mot, ça veut dire « grand ».
Grand.
Être quelqu'un qui est âgé, comme pour nous, nous, un vieux, etc., eux, c'est le mot qu'ils emploient, c'est un mot qui est exactement celui de « grand ». Ou de grandeur.
Ça me fait plaisir.
Comment? Vous? Vous faites combien, vous, déjà?
Je trouve ça tellement beau que ce mot n'existe pas.
Le mot vieux n'existe pas en cri, ça, je peux vous dire ça. Et je pense que c'est une des choses qu'on a beaucoup de difficultés à dépasser. Vous savez, c'est évidemment le vocabulaire qui est accroché au vieillissement.
Ouais.
Et alors, il faut faire très, très attention au vocabulaire. Ouais. D'après moi, c'est de dire, je ne sais pas comment les gens peuvent prendre l'habitude d'éviter d'employer ce mot. C'est idiot ce que je dis là, mais
parce que c'est quand même...
Vous comprenez ce que je veux dire?
Moi, je trouve ça très important. Quand on dit, les mots sont porteurs de sens.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit vieux? On dit un peu mépris, on dit un peu
il est vieux, c'est un vieux. Un vieux, c'est comme ça. C'est grand, c'est comme ça. Tu le regardes en haut un peu. Grand. Alors, ça change le rapport avec les gens, ça, beaucoup.
Sûrement.
Il y a aussi sagesse là-dedans, mais là, j'irai pas jusque-là.
Non, c'est trop ça.
C'est trop fatigant, ça. Il faut rester Dionysos quand on est Dionysos.
Est-ce que vous pensez, vous autant que mes invités, là, est-ce que vous pensez que les personnes âgées apportent des valeurs? Vous avez parlé de ça tout à l'heure, là, les valeurs de l'humanisme, les valeurs de solidarité. Sérieusement, là, les personnes âgées, alors qu'en même temps, on parle d'isolement, elles restent chez elles. Est-ce que les personnes âgées ont des valeurs de solidarité, d'humanisme? La question est ouverte.
On a un bel exemple.
Est-ce que la société le favorise aussi? C'est ça la question.
Et pour moi, c'est la question.
Et quelle est votre réponse?
Elle pourrait l'apporter, elle l'apporte, mais la société ne le valorise pas, n'est pas ouverte, n'est pas à l'écoute de... et a tendance plutôt à les isoler. Alors, c'est sûr que quand les gens n'ont pas les moyens de sortir de leur logement pour aller participer à des activités parce qu'ils vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est bien difficile d'être capable d'aller porter cette sagesse, porter ces valeurs d'humanisme et de solidarité. Alors, il faut donner aux aînés les moyens d'être capable d'apporter cette contribution à la société.
Bon, mais avant de faire la révolution, là, y a-t-il quelque chose de plus simple?
Il y a des révolutions qui se sont faites de façon tranquille.
Oui.
Alors, on est peut-être mûr 50 ans plus tard pour une autre petite révolution. Moi, je suis pas défaitiste. Moi, je pense que on voit de plus en plus le discours changer. Au cours des 10 dernières années, avant, on parlait pas des vieux. On ne parlait pas des aînés.
Non, c'est vrai.
On en parle maintenant. Et le discours change. Regardez, même dans les partis politiques, le discours change. On commence à considérer, dans le discours, ces notions d'intégration des aînés dans la société, etc. Bon, il va falloir que les bottines suivent les babines, que ça se... Puis je suis encore en attente. Que ça se traduise en action, mais au moins le discours a évolué. Alors, au moins, il y a un progrès dans le discours, et je pense qu'il va falloir s'assurer que les actions suivent.
Nous en sommes l'exemple, si je peux me permettre. Quand on a décidé d'appeler ça ardente vieillesse, Dominique, c'était vraiment pour montrer un aspect positif du vieillissement. Parce qu'on est, il faut bien le dire, et je ne sais pas jusqu'à quel point vous n'êtes pas immunisés, vous deux, contre ça, mais quand même, vous avez des yeux pour voir. Le jeunisme, c'est bien de travailler avec les jeunes, c'est bien de valoriser les jeunes, c'est bien de faire avec eux. Mais premièrement, on sera une société dans laquelle, pour la première fois dans l'histoire, il y aura plus de vieux que de jeunes, dans pas si longtemps. Donc, si on ne change pas nos valeurs collectives, si on ne continue pas de... Tu sais, les mannequins qui présentent les beaux vêtements, ils ont 14 ans, là. Alors, on est dans une société qui valorise la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Vous n'en avez pas souffert. En avez-vous souffert?
Non.
Non, hein?
Non.
Monsieur Languirand?
Mais c'est très particulier, nous. On est dans un milieu particulier. Naturellement, je veux dire, nous, la retraite, on ne sait pas ce que c'est. Tu sais, la retraite, c'est 65 ans. Moi, à 65 ans, je grimpais au mur. Tu sais. Non, alors, nous, c'est vraiment différent. Et on a de la chance. Mais je l'apprécie, cette chance.
Je voudrais vous dire personnellement que j'ai retenu d'un voyage que j'ai fait professionnellement, puis en même temps, j'en ai profité pour mon plaisir, bien sûr, parce que c'était un lieu paradisiaque à une époque. J'ai fait le tour Tahiti et les îles autour, etc., passablement, pour faire des découvertes surprenantes. C'est de voir que un très grand nombre de problèmes étaient dans les sociétés tahitienne ou polynésienne, plus exactement, je devrais dire, ça se réglait par les personnes âgées.
Ah oui?
Et c'est encore un peu comme ça chez les Amérindiens, je dois dire, pour faire une comparaison. Je me disais, par exemple, qui dans une île décide que telle petite fille qui a du talent devrait peut-être s'en aller de la petite île vers Tahiti pour poursuivre des études, par exemple? Eh bien, il y a un ami qui me répondait gentiment comme ça, c'était pas péjoratif du tout. Ah, c'est toujours les bonnes femmes qui décident ça. Tu comprends qu'ils vont décider ça. C'est-à-dire des femmes qui se réunissent à certains moments pour parler de choses et d'autres et qui disent tout à coup, bon, la petite, là, est rendue à telle étape, là, elle, il va falloir l'envoyer dans une autre île parce qu'il faut qu'elle puisse continuer ses études, etc. Les décisions sont prises beaucoup. Et je trouve, de ce point de vue-là, qu'on a perdu... On a perdu, comment je peux dire, le nerf de la guerre, en ce sens que les gens âgés, puis les gens âgés ne se sentent plus investis d'un pouvoir, vous comprenez? Et c'est avec un exemple comme celui-là que je vous donne, ou celui des Cris en particulier, ce qui me fascine, c'est que dans ces sociétés-là, les gens âgés jouent un rôle très important dans la société. Beaucoup plus qu'ici, c'est ça, ici, moi je trouve, là il y a des exceptions à ça, c'est évident, mais je trouve qu'il y a une ségrégation. Vous comprenez? Je veux dire, les vieux sont d'un côté, puis on n'a pas besoin d'eux. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire?
Mais si on arrêtait la retraite, c'est une des suggestions du Dr Hébert, si on arrête tout le monde, on ne fait plus la retraite obligatoire à 65 ans, est-ce que ça changerait?
Ça pourrait aider, certainement.
Vous croyez?
Moi, je connais des gens, je suis dans une situation qui me permet d'intervenir dans une chose comme ça. Je vous dirais, parce qu'à Radio-Canada, je suis le seul vieux qui fonctionne encore. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un employé de Radio-Canada. Ils ne peuvent pas me mettre dehors, si même. Moi, il y a des années que maintenant je suis contractuel. Alors, si j'avais été de Radio-Canada, je serais parti de Radio-Canada, je ne sais pas quel âge, mais j'en ai vu disparaître. Ah, oui. J'ai vu des gens merveilleux du théâtre qui étaient des êtres merveilleux et qui ont quitté le métier, qui sont partis et qui... Bon, certains font d'autres choses qui est intéressant sans doute, mais il y en a d'autres qui sont complètement tombés dans le no man's land.
Mais vous savez...
Alors, moi, je suis contre la retraite de ce point de vue-là. Obligatoire, je veux dire.
On n'a pas de retraite obligatoire au Québec. Ça n'existe pas. Non, les gens se sentent obligés de prendre leur retraite, mais il n'y a pas de retraite obligatoire.
Ah, oui, mais les patrons vont vous remercier, non?
Je pensais que c'était automatique.
Non, ce n'est pas automatique. Alors, les gens, il n'y a pas de retraite obligatoire.
C'est-à-dire que c'est presque négocié, en fait.
Ben oui, ben, les gens la prennent de plus en plus tôt, d'ailleurs.
Mais disons, dans le monde de l'enseignement, est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, j'ai dépassé l'âge dit de la retraite, mais je veux rester à l'enseignement?
Moi, j'ai encore des professeurs à la faculté qui ont 75 ans. Et qui sont encore là.
Oui, mais vous, depuis le début, vous êtes un cas.
non, mais c'est pas... Je pense qu'à l'université, mais il y a des incitatifs à prendre la retraite, parce qu'il y a des pensions qui sont...
Quand même, c'est pas une loi écrite, c'est une loi de consensus.
Alors, c'est pour ça qu'il faut enlever ces incitatifs à la retraite et permettre aux gens de continuer. Et je suis sûr que, même dans le milieu artistique, qui est un milieu habituellement... qui est à l'avant-garde. Il y a eu des conditions de travail qui ont été aménagées pour vous permettre de continuer à travailler. J'aimerais ça que vous nous en parliez, mais je suis sûr qu'on a aménagé votre temps de travail, vos conditions de travail pour vous permettre de continuer.
Non?
Dans ce métier-là, vous savez.
Non, je pense pas.
Le rythme n'a pas changé. On vous demande le même rythme.
Ah, mais instinctivement, on le fait. Donc... ils oublient. J'espère qu'ils oublient que je suis très vieille. Non, je ne pense pas. Mais alors, c'est une chose que je comprends très, très mal, les gens qui prennent leur retraite très tôt. À mon avis, c'est parce qu'ils sont dans un métier peut-être qu'ils n'aiment plus. Ou qu'ils n'ont
Carole, on a des gens
jamais
ici
tellement aimé. Mais puis il y a une chose, je trouve intéressante, mettons que des gens prennent leur retraite, c'est peut-être aussi une façon d'aller vers quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie.
Exactement. Une seconde carrière.
Et donc, ils ont toujours eu envie. Je le pense qu'il y a une proportion de gens comme ça.
Tout à fait.
Je vais vous donner la parole, madame.
Oui. Non, moi, mon commentaire, c'est que dans certaines compagnies de juridiction fédérale, Air Canada, pour ne pas la nommer, on est obligé de prendre notre retraite à 65 ans.
Vous êtes obligé par par entente
par la politique de la compagnie. Non.
Même c'est négocié avec le syndicat, j'imagine.
Même le personnel cadre. Ah. C'est la politique de la compagnie. Voilà. À 65 ans, on ne peut plus être un employé à temps plein, avec tous les avantages que ça comporte. Par contre, on peut revenir comme contractuel 2 ans après la retraite.
OK.
Mais comme employé normal, je dirais, à 65 ans, tu es obligé de prendre ta retraite.
Est-ce que vous pensez que ça se pourrait que ça change? Est-ce que ça pourrait changer?
On l'espère grandement. Parce
Et qu'est-ce
que
qui ferait que ça changerait? Comment est-ce qu'on peut faire changer ça, d'après vous?
Bien, par les pressions populaires, peut-être. Et comme il y a beaucoup de provinces qui ont changé la région pour discrimination, c'est ce côté-là qui est discuté beaucoup, parce que c'est de la discrimination. Quelqu'un qui est en santé et qui choisit de santé pour des raisons qui lui sont propres. Mm-hmm. Autant je suis favorable à la retraite à 55 ans pour ceux qui le désirent pour se réorienter, autant la personne qui veut travailler jusqu'à 75 et qui a les capacités de le faire ou pas d'âge limite, en autant que tu peux faire ton travail.
Donc, la souplesse évoquée par le docteur Hébert. Si les jeunes ne veulent pas rentrer le lundi, les vieux rentrent le lundi. Puis si les vieux veulent partir le vendredi, les jeunes travailleront le vendredi.
Et voilà. Parce que c'est très souvent, laisser le choix aux gens et puis avoir le plus de productivité par des gens qui sont heureux et qui sont là où ils veulent être, que ce soit la retraite, en fait. C'est...
Merci.
Vous avez travaillé à Air Canada, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça que...
Je travaille encore,
mais... Oui. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que dans certaines compagnies, je pense en particulier aux Pays-Bas, avez-vous remarqué que le personnel, par exemple, dans les avions, est beaucoup plus âgé qu'à Air Canada, par exemple?
Ah oui? Dans certains... Oui, mais moi, je ne parlais pas seulement du personnel en vol.
Oui, je comprends.
Même à tous les niveaux, au point de vue administratif. Parce que le personnel en vol, quelquefois... Il y a des restrictions parce qu'ils sont longtemps debout. Il y a des restrictions physiques qui peuvent faire que c'est plus difficile à partir d'un certain âge.
Moi, je pense qu'il faudrait ici carrément avoir une action dans ce sens-là pour tâcher de briser la clôture, si vous voulez, qu'il y a entre le... Briser ça, faire quelque chose comme ça, oui, parce que je pense... C'est pour ça que je donnais ces exemples-là, par exemple, de l'intervention des gens en Polynésie, par exemple, d'un certain âge. Oui, bon, là, ils sont toujours très actifs quand ils sont vieux. Aussi, la pêche, etc. Et ensuite, la même chose quand je suis dans l'aviation, ce que j'ai m'a frappé, là, je prends le cas des Pays-Bas parce que ça m'a beaucoup frappé, et ma compagne aussi, nous autres, on disait, tiens, c'est incroyable, au lieu d'avoir des
petites jeunes, là?
Ouais, des petites jeunes qui, c'est bon, etc. J'ai rien contre les petites jeunes, taisons-nous. J'ai rien contre les petites jeunes, la question n'est pas là, mais tu te retrouves avec des gens qui ont une maturité, qui sont, tu sais, qui ont autour de 50 ans,
mais
55
ans. Mais ça commence ici, hein, parce que vous avez certainement vu l'annonce de Saint-Hubert qui disait qu'il engageait maintenant des personnes à l'accueil de plus de 50 ans. On n'est pas rendu des personnes âgées, mais quand même.
Non, non.
Parce que ces personnes-là avaient, dans les files d'attente, pouvaient reconnaître les personnes âgées, leur offraient des sièges, savaient quoi faire avec les petits bébés. Et donc, on pouvait voir un avantage à avoir une personne plus âgée à l'accueil plutôt qu'une Barbie qui va accueillir les gens.
Alors qu'on n'a rien contre les Barbies.
On n'a rien contre les Barbies. On n'a rien contre les Barbies.
Écoutez, ça peut toujours servir.
Dans certaines quincailleries de grande surface, de plus en plus, les commis qui conseillent les clients sont des personnes plus âgées et les clients vont aller beaucoup plus vers les personnes plus âgées pour avoir des conseils sur quel bidule il faut.
Alors, il faut le dire, il faut le répéter, puis il faut le favoriser. Je veux dire, il faut le montrer et le favoriser. Il faut faire de la communication à ce sujet-là.
Ici, on avait quelqu'un qui voulait passer un petit commentaire. Bref.
On vous écoute, monsieur.
Oui. Moi, pour moi, monsieur Languérin et madame Sitot, quand je regarde Mme Citeau sur les planches ou quand j'écoute M. Languérin le dimanche soir, je ne suis pas en train de regarder ou d'écouter quelqu'un qui a tel âge.
Non.
Je suis en train tout simplement d'écouter deux êtres humains qui ont beaucoup à m'apporter.
Mm-hmm.
OK? Puis je dirais, moi, je suis conseiller en emploi auprès d'une clientèle de 40 ans et plus.
Ah oui.
Puis j'ai beaucoup de personnes qui, pour elles, même à 60, 65 ans, on a un client de 71 ans. Puis pour lui, l'âge ne pose absolument aucun problème par rapport à lui-même. Puis si on regarde, je veux dire, l'âge comme tel, pour moi, n'est pas un handicap. Ça dépend ce qu'on en fait de notre âge, quelque part. T'sais.
Donc, je veux dire, il y a
les capacités physiques, il y a quand même, il y a peut-être nos capacités physiques, mais là, il y a encore une adaptation. M. Languérin en parlait tantôt, puis on s'adapte à des situations. Mm-hmm. La vie est toujours un changement, une adaptation constante, selon moi. Puis l'âge, je ne suis pas si sûr que ça. Moi, je pense que si on a l'élan, puis si on a la passion, au nom de l'élan, puis de la passion, puis du goût du partage, puis du goût d'être utile, j'ai de la difficulté à admettre que la personne ou la société vers qui je vais aller, si je suis sincère, si mon discours est clair dans ce que j'aimerais lui apporter, que la société, d'emblée, dise non, on n'a pas besoin de toi, on n'est pas ouvert.
Donc, vous croyez que la société est prête à accueillir les gens? C'est souvent les gens, dans leur conception, qui se disent « Moi, je suis vieux, on ne voudra pas de moi. »
Oui, oui. Mm. Puis ça, c'est sûr que l'entourage peut y faire pour beaucoup.
Mm.
Puis là, il y a toute la question des politiques sociales, bien entendu. L'État fait des choix, puis tout ça.
Votre monsieur de 71 ans, il n'ira pas postuler à Air Canada.
Oui, mais, ce que je trouverais malheureux, là, à un moment donné, c'est qu'on dise « Bon, ben là, on va s'occuper des gens de tel groupe d'âge. La société, l'État, le gouvernement va dire « Bon, là, on a assez donné aux gens en haut de 60 ans. Là, maintenant, c'est autrement dit de nous opposer, de nous mettre un contre l'autre. T'sais? Des groupes d'âge un contre l'autre. Au nom de quoi, finalement? Parce qu'on est tous dans la même collectivité, on a tous des choses à s'apporter. Fait qu'il y a ça, là.
T'sais? Mais au nom peut-être de rétablir une certaine égalité, une certaine justice, un certain accès, si on remarque une inégalité, une injustice ou une discrimination.
Il faut changer le discours, finalement.
Oui, c'est ça. Même.
C'est une question de discours. Il y a l'idée qu'à 50 ans, 60 ans, il y a une structure,
des compartiments
comme ça qui nous imposent un comportement qui n'est pas nécessairement adapté à un individu en particulier ou à des individus pris isolément.
Et en ce sens-là, on peut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. On peut regarder, vous êtes allé voir chez les Inuits en Polynésie, on peut regarder aux Pays-Bas, on peut regarder au Japon, comment les Japonais traitent, parce qu'on va partager avec les Japonais le beau rôle d'être le deuxième pays le plus âgé dans 50 ans, selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé. Mais donc, on pourrait s'inspirer des autres populations. Que pourrait nous inspirer qui, Dr Hébert, dans tout ce que vous avez vu, vous?
Bien, les choses intéressantes, je parlais de la Finlande tout à l'heure, mais il y a le Danemark aussi. Les pays scandinaves sont des pays extrêmement intéressants à examiner. Au Danemark, dans chacune des municipalités, il doit y avoir un conseil des aînés. Le conseil des aînés n'est pas un conseil décisionnel, mais les décisions du conseil municipal doivent habituellement être référées au conseil des aînés obtenir un avis. Et il y a dans toutes les municipalités un conseiller municipal qui est responsable du conseil des aînés et qui est donc le lien entre les dirigeants et ce conseil-là qui va donner son opinion sur certains aspects de la gestion de la cité. Alors, c'est un modèle extrêmement intéressant de participation sociale et ça permet, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un programme qui s'appelle Ville amie des aînés, où Sherbrooke, je suis chauvin, où Sherbrooke était une des villes qui ont participé
à un projet pilote.
Et c'est donc une série de critères où une ville peut s'auto-évaluer en fonction de est-ce qu'elle est vraiment aging friendly, comme disent les anglophones. Ça concerne, est-ce qu'on a des logements adaptés? Est-ce que l'urbanisme est adapté aux aînés? Vous savez, on vit les relents de l'urbanisme nord-américain, là où dans chaque ville, puis Sherbrooke ne fait pas exception, on a le grand boulevard où sont les différentes chaînes de magasins d'alimentation et de centres d'achat à l'extérieur. Un urbanisme qui est tout à fait inapproprié pour les aînés. Ouais. On n'a plus de vie de quartier, on n'a plus de commerce de proximité. Mmh. Il faut absolument une automobile pour pouvoir se déplacer. Où les transports adaptés sont inadaptés. Parce que le transport régulier n'est pas adapté aux personnes aînées. On est obligé de développer du transport adapté, mais
est-ce
il serait peut-être mieux de corriger.
Est-ce que ça va changer quelque chose chez vous d'avoir
alors,
été
ça
membre
une
d'un
réflexion.
Projet pilote?
Alors, ça permet une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on fait en termes de transport, en termes de logement, en termes d'urbanisme, en termes d'organisation sociale pour que les aînés soient mieux intégrés. Et ce qui est bon pour les aînés est bon pour l'ensemble de la société.
Ah, ça, c'est certain.
Quand vous avez, par exemple, des HLM où il y a où on installe, où on pense à installer des ascenseurs, parce que croyez-le ou non, il y a des HLM où il n'y a pas d'ascenseurs, et donc qui ne sont pas accessibles à des gens qui ont des handicaps, ben c'est aussi intéressant pour les jeunes familles avec des enfants et des poussettes de pouvoir bénéficier d'un ascenseur.
Absolument.
Ce qui est bon pour les aînés est aussi bon pour le reste de la société. Les normes de construction.
Voilà. Alors, si métro à Montréal. Hein?
Exactement.
Essayez d'avoir une poussette dans le métro, vous.
Alors, ou un vélo.
C'est l'enfer.
Alors,
vous avez de la difficulté à descendre des marches. Imaginez-vous, dans mon métro, moi, il y a à peu près 53 marches à descendre avant d'arriver au premier escalier.
Non, moi, si j'ai une rampe, je suis parfaite.
Une rampe. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Hein? Mais la société s'est déjà adaptée aux personnes handicapées après beaucoup, beaucoup d'interventions, d'organisations qui ont milité pour des changements. Il y a eu des conférences internationales. Est-ce qu'on va devoir passer par là? Pour les personnes âgées?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a une génération de personnes âgées qui arrivent actuellement, qui a été habituée à être impliquée socialement. Et attachez vos tuques avec de la broche, parce que je pense qu'on va avoir une pression politique qui va être beaucoup plus forte que la génération précédente qui n'avait pas la même implication sociale.
C'est des gens d'idées, c'est des gens d'action, c'est des gens qui ont l'habitude de se faire entendre. Donc, il y a ici, oui, il y a quelqu'un qui veut parler?
Oui, il y a quelqu'un ici qui veut parler.
Merci. En vous écoutant, je me suis demandé si la sagesse vient à nous ou bien que nous, on va à la sagesse.
Ah, tiens donc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ça m'a intrigué un peu parce que j'ai écouté par quatre chemins dans les premières années que M. Languirand s'exprimait.
Il y a 35 ans?
Il y a à peu près 35 ans, quelque chose comme ça. Et puis, après un certain temps, bien là, ma vie a changé et puis j'ai été obligé d'arrêter d'écouter. Est-ce que moi, j'ai pris mon chemin? Peut-être que oui, j'ai pris un chemin, qu'entendu, puis là, je me suis rendu à la retraite. Là, j'ai un petit hic là, que je veux vous dire que la dame tantôt disait qu'à partir de 65 ans, dans les industries, dans les usines, dans les grandes agglomérations, on ne peut pas aller travailler après 65 ans, à moins d'être, comment est-ce qu'on dit ça, là, avec contractuel.
Oui, c'est ça.
C'est parce que les assurances, les compagnies d'assurance ne nous assurent pas. La CSST ne nous assure pas. Il n'y a aucune responsabilité. Et si, dans une compagnie, vous restez dans une compagnie après 65 ans, ils sont obligés de vous pousser dehors parce que c'est la compagnie elle-même qui est responsable de vous. Si vous voulez l'être, ben vous devenez contractuel, comme il dit, trois ans après.
Ouais.
Mais là, c'est sur vos charges, tout est là. C'est
donc, on voit un peu la difficulté que ça va être de vouloir changer.
Après 65 ans, il n'y a pas de compagnie d'assurance qui va vous assurer, c'est certain. Même nous autres, on peut nous assurer pour notre vie, puis je vous assure, ça coûte des sous.
Mais si je comprends bien, merci, monsieur, de ce que vous dites aussi bien que de ce qu'on dit ici, moi, le sentiment que ça me donne, c'est qu'on est au début de quelque chose, d'un mouvement, on est les témoins privilégiés d'une amorce de changement de société qui va nous changer collectivement, en fait, dans quelques années, si on aboutit quelque part. Mais on devra aboutir quelque part, parce que ce que vous dites, là, les villes amies, c'est un programme de l'Organisation mondiale de la santé, et donc on s'intéresse à tous les pays industrialisés qui tous sont en train de vieillir. Qu'on veuille ou pas regarder vers l'étranger regarde vers nous.
parce qu'il y a toutes sortes de discriminations subtiles et moins subtiles, puis vous en avez évoqué quelques-unes, qui existent dans notre société, ne serait-ce qu'au niveau des municipalités. Écoutez, si un groupe de jeunes veut avoir un local pour faire des activités sportives, ils vont voir la municipalité, ils ont un local. Si des âgés vont voir la municipalité, bon, on les réfère à la paroisse parce que c'est pas, ils n'ont pas accès. Il y a des programmes de déduction fiscale pour l'activité physique pour les jeunes, mais il n'y en a pas pour les personnes âgées, alors que l'activité physique est aussi importante, même plus, chez les personnes aînées que chez les adultes plus jeunes. Alors, il y a toutes sortes de discriminations qui sont encore présentes dans notre société par rapport à l'âge, et je pense qu'il faut les dénoncer. Et je pense que c'est la première action, c'est de dénoncer ces discriminations-là. On a fait un travail extraordinaire par rapport à d'autres discriminations, par rapport au sexe, par exemple, ou à l'orientation sexuelle, ou à d'autres stigmates sociaux. Et pour les âgés, on n'entend pas ce discours-là. On n'entend pas de dénoncer des stéréotypes, de dénoncer des discriminations qui existent. Et de plus en plus, je pense que les organismes, c'est le message que je donnais à des organisations de personnes âgées ou de personnes retraitées, vous êtes responsable de dénoncer les discriminations, de dénoncer les stéréotypes quand vous en voyez, parce que c'est le premier pas à franchir pour être capable d'avoir une société qui intègre les aînés à part entière.
Madame Gendron, où est-ce que vous êtes? Bon, répondez donc à ça. Vous, là, vous en avez plein les bras d'aider vos aînés là, qui sont pris avec des gens malades. Quand vous donnez des répits, Monsieur Hébert vous dit revendiquer en même temps. Là, c'est pas assez de donner du répit aux gens. Je suis un petit peu provocatrice quand je dis ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Vous, vous donnez des services à des gens.
Oui.
Vous aidez les gens, comme l'expliquait Mme Suto, qui est votre marraine. Vous aidez les gens à prendre des vacances et vous prenez en charge les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pensez qu'il vous reste de l'énergie pour revendiquer et dénoncer que les gens qui sont les aidants naturels en ont trop sur le dos?
Est-ce qu'il nous reste de l'énergie à Baluchon? Ben, je pense qu'on a gagné un grand point en démocratisant le service. On s'est battu pendant 9 ans à Baluchon. Dr. Hébert est bien au courant de ça, Mme Suto aussi. Alors, il a fallu se battre pour avoir pour que les familles puissent avoir le service beaucoup moins cher.
Avec qui vous vous êtes battu?
On s'est battu avec plusieurs ministères. Okay. On s'est battu entre nous, dans le sens où on a dit qu'il ne faut pas lâcher. On a demandé de l'argent à des fondations. On a vécu de la charité publique jusqu'à maintenant. Tantôt, j'écoutais des gens parler des personnes âgées. Moi, évidemment, j'aime beaucoup les gens atteints d'Alzheimer. Je trouve qu'ils ont une sagesse. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui m'a dit, écoute, mon père me dit des vérités qu'il ne m'a jamais dites. Puis il est atteint d'Alzheimer. Alors aussi, il faut enlever le stigmate des gens atteints d'Alzheimer. Ils retrouvent, je les appelle les scanners d'âme. Ils sont capables de nous juger, ils sentent notre sensibilité. Alors là aussi, il y a beaucoup de discrimination face aux gens atteints d'Alzheimer.
Des préjugés, en fait. Hein?
Pardon?
On a des préjugés.
Absolument, de forts préjugés. Il y a beaucoup de souffrance liée à la maladie, là, je ne nie pas ça. Mais souvent, ils sont exclus. Il y a encore énormément de honte liée à la maladie.
Et Baluchon Alzheimer, pour ceux qui sont dans la salle, c'est beaucoup plus qu'un répit. Parce que les baluchonneuses ont une expertise, donc au niveau de leur intervention, au niveau de leur intervention face à certains comportements de la personne. Et pendant qu'ils passent une semaine avec la personne malade, ils développent des stratégies qu'ils vont ensuite transférer au proche aidant pour améliorer son intervention par la suite. Alors, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que non seulement le proche aidant bénéficie d'un répit bien mérité, mais en plus, on va mieux l'habiliter à intervenir auprès de son proche. Et je pense que c'est le caractère très original de Baluchon, puis je rends hommage à Marie qui s'est débattue depuis plusieurs années pour ce concept. Marie est une scientifique qui a décidé d'incarner... D'incarner ces idées, ces innovations et d'avoir une action sociale. Et je pense que c'est tout à ton honneur, Marie. Bravo.
Jacques, qu'est-ce que vous vouliez ajouter?
Moi, je voudrais seulement ajouter ceci, c'est que cette ségrégation est très difficile à rompre.
Parce que je vois, par exemple, qu'il y a quelques années, Radio-Canada avait une émission qui s'adressait particulièrement dans l'après-midi aux personnes âgées, etc. Tout ça a disparu. C'est-à-dire que le monde de la communication est très fort sur la ségrégation de ce point de vue-là. Oui. Ils calculent en fonction des âges. Ils n'achètent pas de voiture après 60 ans. Ce genre de trucs-là. Bon.
On ne peut pas vendre d'annonce de voiture, oui, autrement
c'est
dit.
Ça, c'est ça, oui. Exactement. Alors, la difficulté, c'est... Je reviens avec l'idée que j'avais. Évidemment, ça touche à mon métier, ça. Je suis un homme de discours, je suis un homme de communication, et je me dis, il faudrait que les communications soient beaucoup plus engagées dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis mis à travailler à un projet avec une amie qui, elle, est dans la quarantaine à peu près, et qui pouvait s'intéresser à ce projet-là. Puis je me disais, c'était un projet dans lequel je pourrais faire quelque chose, et elle aussi, et d'autres aussi. On essayait de voir comment on pouvait amener les gens âgés ou plus âgés dans des émissions. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas seulement dire, ça c'est pour les 20 ans, les 30 ans, puis après ça, après 50 ans, il n'y a plus personne.
Mais vous savez, comme moi, Jacques, que dans les milieux médiatiques, on est très conservateur. S'il
n'y
a pas un mouvement social qui pousse un média, qu'il soit Radio-Canadien, TVA ou n'importe lequel, s'il n'y a pas un mouvement social derrière qui pousse, les médias ne vont pas bouger. Ce n'est pas des avant-gardistes, les médias.
Ah, pas du tout.
Non, vous êtes une exception à Radio-Canada aussi parce que vous faites la promotion d'idées nouvelles.
Ah oui.
Et ce n'est pas partout. Vous avez cette chance-là. Hein?
Non, mais j'essaie de devenir contagieux. Et d'amener mes confrères, mes consoeurs à comprendre ça. Ils le comprennent, c'est que ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Ça passe difficilement. Bon, en tout cas, on va essayer encore une fois de trouver une formule d'émission qui serait ouverte, si vous voulez, familiale un peu. Qui toucherait à tous les âges.
Alors, sans oublier les personnes âgées.
Exactement.
Parce que généralement, quand on fait des émissions famille, on s'intéresse aux enfants et aux parents, mais on ne s'intéresse pas beaucoup aux personnes
âgées. Parfois, il y a une
âgées.
Figuration pour les grands-parents.
Oui, un petit passage discret. J'ai lu quelque part, quand je préparais cette discussion-là, que la médecine et les progrès de la santé publique ont fait changer notre conception de l'âge, que nous ne pensons plus l'âge comme nous le pensions. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que, par exemple, moi j'ai posé la question au premier débat, quand est-ce qu'on est vieux? Et Louis Bérère, le professeur de l'Institut universitaire de gériatrie, a dit « on est vieux à 75 ans ». On est plus vieux à 65 ans ou à 50 ans ou à 70 ans. Il avait remarqué dans ses recherches qu'on était vieux à 75 ans. Ça, c'est un grand changement par rapport à ce que mes parents ont vécu, par exemple. La vieillesse même, l'idée de la vieillesse a changé. Vous ne croyez pas?
Parce que maintenant, les gens meurent beaucoup plus tard.
Oui, on parlait d'espérance de vie. Hein? L'espérance de vie est plus longue.
J'ai senti que j'étais vieille.
Quand?
Vers 84.
Ça vient d'arriver.
Au début.
C'est tout récent, là.
Non, mais j'ai senti que j'étais vieille parce que nécessairement, je perds des forces, c'est sûr.
Mais écoutez,
c'est certain, un tas de choses que si mes petits-enfants étaient petits, je ne pourrais plus les prendre dans mes bras. Sûrement pas.
Ouais, ouais.
Mais naturellement, à un moment donné, il faut vraiment faire un peu attention. Puis pour les plus jeunes, protégez-vous dans le sens, physiquement, il y a des choses à faire. Tu sais, moi, j'ai 87 ans, je fais du pilates.
Bravo!
Mais merveilleux! C'est ma petite amie Jeannette Bertrand qui m'a entraînée là-dedans, mais elle a bien fait.
Donc, à partir de 84 ans, il faut commencer à faire attention, c'est ça?
Mais donc, j'ai commencé un peu plus tôt à faire attention. Mais pas à me rendre compte.
Mais ça a évolué beaucoup. Moi, au début de ma carrière, début des années 80, écoutez, les instituts de réadaptation avaient un critère de 65 ans. En haut de 65 ans, on ne pouvait pas entrer en réadaptation. Ah bon? En haut de 65 ans, on ne pouvait pas avoir une prothèse de hanche, une prothèse de genou. Maintenant, on dit que les gens attendent 6 mois, là, mais il y a 25 ans ou il y a 15 ans à peine.
Ils pouvaient pas attendre.
Au-dessus de 70 ans, on n'avait pas accès à ça. La chirurgie cardiaque, on fait des chirurgies cardiaques maintenant en haut de 80 ans. Ce n'est plus l'âge qui détermine l'indication chirurgicale, c'est la condition, la qualité de vie, le gain d'autonomie qu'on peut avoir suite à une intervention. Et ça, c'est un progrès extrêmement important.
Mais oui.
Et c'est encore une discrimination selon l'âge qui est en train de s'estomper au niveau médical. Bon, il va falloir aussi prendre des décisions éthiques importantes, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une qualité de vie très pauvre, qui a eu des invalidités extrêmement importantes et qui n'a aucun gain à avoir une intervention ou encore un traitement de chimiothérapie, par exemple, ben là, il faut savoir quand s'arrêter.
Mais ça doit se faire déjà.
Mais c'est vrai aussi à 40 ans. On fait de l'acharnement thérapeutique à 40 ans, on en fait aussi à 80 ans, parce que ce qui est important avant d'entreprendre une thérapie, c'est de bien évaluer le gain réel de ce traitement-là en termes d'amélioration de la qualité de vie, d'amélioration de l'autonomie.
Donc,
et ça, c'est une réflexion éthique qu'on doit avoir.
Mais donc, l'âge, on a changé notre perception face à l'âge. On a beau dire qu'il y a encore des discriminations, mais nous avons évolué déjà comme société. Il y a quelqu'un qui veut parler?
Oui. Moi, j'aimerais faire un commentaire, revenir sur votre révolution tranquille. Mm-hmm. Je pense que nous, on a une obligation envers nous-mêmes. Si on pense que la société, elle est le reflet de ses membres, alors c'est à nous, les membres qui vieillissons, de nous garder en bonne santé, de donner l'exemple, et à force d'être un nombre de plus en plus nombreux à vieillir sous cet angle-là, on va changer la société.
Et vous aurez une ardente vieillesse.
Absolument.
Quand est-ce, Jacques Languirand, vous allez considérer que vous êtes vieux? Prenez votre micro.
Je ne considère pas vieux du tout.
Non, non, mais parce que là, vous ne vous considérez pas vieux quand même.
Comment?
Est-ce que vous vous considérez vieux là maintenant?
Là, je vous dirais, j'aime pas encore le mot.
Non, mais
ben, justement,
d'accord.
On y a renoncé pour, quant à moi, mais je veux dire, je vous dirais que. J'ai 77 ans maintenant. Et vers, je disais à la blague comme ça, à 74 ans et demi, j'ai compris que j'entrais dans la vieillesse.
Ah, ben voilà.
Je dis 74 ans et demi pour ajouter quelque chose d'un peu insolite là-dessus.
Oui,
là,
je comprends.
Pour être prisonnier de la formule.
Qui a le micro? Oui.
Madame Dumais.
J'ai une petite question sur le point de vue éthique et le vieillissement à tout prix de la population.
Le vieillissement?
Le vieillissement à tout prix.
À tout prix.
On dirait qu'on ne veut plus que les gens meurent. C'est fragile de parler de ça, c'est sensible. Mon père fait de l'Alzheimer. Il est rendu à 84 ans. Il est dans une sale période. Très, très difficile pour lui. Et on continue à le soigner pour le cœur. On continue à lui donner des médicaments pour pas qu'il meure d'une crise cardiaque.
Mais vous n'avez pas votre mot à dire.
Non, je veux dire, tout le monde croit que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas le laisser mourir. Il faut absolument le soigner à tout prix. Et puis, est-ce que...
C'est une grande question, hein, ça.
Ben, c'est la réflexion éthique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque on donne des traitements, il faut savoir pourquoi on les donne, quel est l'objectif. Et parfois, on perd l'objectif de vue. Mon collègue Marcel Arcan étudie ce phénomène-là des traitements à visée préventive chez des gens qui ont des stades avancés de maladies d'Alzheimer, de maladies dégénératives, etc. Est-ce qu'on doit encore prévenir l'hypercholestérolémie? Est-ce qu'on doit encore prévenir un certain nombre de phénomènes qui n'ont plus de pertinence par rapport à la qualité de vie actuelle? Et c'est toute cette réflexion éthique-là qu'on doit mettre sur la table et discuter avec les familles, avec les personnes. Souvent, quand les gens n'ont pas d'atteinte cognitive, on peut le faire avec elles. Et souvent, quand les personnes elles-mêmes ont à prendre ces décisions-là, le choix est très facile. On a fait une étude, nous, où on a essayé de quantifier la valeur attribuée à l'autonomie par rapport à... Et on faisait une comparaison avec la vie. Hein, on dit par rapport à vivre 5 ans, combien de temps vous pourriez vivre en perte d'autonomie? Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'autonomie pour les personnes aînées, c'est plus important que la vie elle-même. On est prêt à faire des compromis sur la vie pour garder l'autonomie. Et la pièce de M. Languérin sur Faust, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un peu le mythe de Faust, en fait. Qu'est-ce qu'on voudrait échanger en termes de survie pour pouvoir avoir une vie autonome? Et pour les aînés, l'autonomie est la valeur la plus importante au-delà de la vie elle-même. Et je pense que c'est souvent le critère dans les discussions qu'on a avec les personnes âgées ou avec les proches, c'est quel est l'objectif en termes d'amélioration ou de maintien de l'autonomie chez cette personne-là. Et si il n'y a pas un objectif d'amélioration de l'autonomie, il faut remettre en question la poursuite d'un traitement qui a plus sa raison d'être. Et je pense que c'est une réflexion éthique que de plus en plus on devra avoir. Et dans un monde technologique, je vous assure que ce n'est pas une réflexion facile à inculquer à nos étudiants ou à nos jeunes professionnels.
Je reviens un peu. L'année dernière, avec Jacques, Jacques avait besoin d'avoir des traitements de Coumadin. Donc, on se rendait à l'hôpital Jean Talon une fois, deux fois par semaine. Et il y avait là, en file, des centaines de personnes âgées, très, très, très âgées. Et pour beaucoup, vraiment dans un sale état, très dépendant. Et on continuait à leur donner du Coumadin à planche.
Qu'est-ce que c'est, le Coumadin?
Le Coumadin, ben, en fait, c'est...
C'est un médicament,
C'est un anticoagulant.
Merci. Pour éclaircir le sang, comme disaient les
gens. Pour pas que les gens meurent de problèmes cardiaques ou des choses comme ça. Donc, c'est un médicament pour les personnes âgées, là, très utilisé. On se dit, on les prolonge.
Merci, Mme Dumais. Madame Souteau, vous m'avez dit, quand on s'est parlé avant, que vous, là, vous ne vouliez pas être un fardeau pour les gens. Vous ne voulez pas être un fardeau. Vous avez dit, quand moi, ça va être le temps, là, je vais aller dans une maison de retraite, je ne veux pas être un fardeau pour les gens.
Mais je pense que c'est une chose extrêmement importante. Je veux dire, tu sais, déranger le monde, être un fardeau, je pense à ça depuis très, très longtemps. Je ne peux pas admettre ça. Je ne peux pas admettre et je ne suis pas d'accord non plus tout à fait quand j'entends dans le temps, on gardait les grands-mères. Mais qui vous dit que ça allait dans le meilleur des mondes, que ça allait bien? Pas nécessairement. Hein. Alors non, moi, j'irais dans une résidence, pourquoi pas?
Et est-ce que l'autonomie, ce serait votre critère numéro un? La qualité de votre vie, ce serait d'être autonome?
Oui. Je veux dire, ce qu'on a peur quand on vieillit, ben, on a peur nécessairement que tes forces en aillent graduellement, c'est certain, mais on voit où est-ce qu'on peut aller. Alors, l'autonomie, c'est extrêmement important. Alors, je ne veux pas imposer ça, moi, à ma famille. Absolument jamais.
Donc, ce serait un des critères qu'on devrait mettre tout le temps dans la balance, M. Languérin. Il
semble que je m'arrangerais quand on peut s'arranger.
Oui, certainement, moi aussi, oui, certainement. Mme Dumais parlait tout à l'heure de son père. Eh bien, je veux vous dire, son père, au fond, lui, avait envie de rejeter. Lui, quand, aussi longtemps qu'il était lucide, il disait, mais arrêtez de me soigner. Je suis malade, puis je suis en train de mourir, foutez-moi la paix. Il y avait un peu de ça, j'exagère un peu peut-être, mais il y avait un peu de ça quand même dans le discours finalement.
Oui, il pourrait y en avoir, de votre part, de ma part, de la part de n'importe qui, il pourrait y avoir arrêté de me soigner. Est-ce qu'on a le droit d'arrêter de se faire soigner?
Je le pense, non?
Oui, je pense que l'euthanasie passive, ce qu'on appelle l'euthanasie passive, c'est-à-dire de cesser la cessation du traitement, est une décision qui se prend... tous les jours, je dirais. Là. C'est quelque chose qui est possible.
Mais qui a l'autorité?
Moi, je n'irais pas jusqu'à l'euthanasie active, c'est-à-dire de provoquer la mort. Ça, je pense que ça nécessite tout un encadrement et il y a des risques de dérapage importants. Mais de cesser des traitements qui n'ont plus leur raison d'être, je pense qu'on doit le faire et on ne le fait pas assez souvent. Il y a beaucoup d'acharnement thérapeutique encore dans nos hôpitaux et pas juste pour les aînés. Pour des clientèles plus jeunes et même pour des bébés, il y a de l'acharnement thérapeutique. Et à un moment donné, il faut réaliser la limite d'un traitement et réaliser quel est l'objectif et être capable de cesser ce traitement parce qu'il n'apporte plus les bénéfices escomptés.
Et peut-être que c'est dans ce sens-là, et on va se quitter là-dessus, mais c'est dans ce sens-là aussi que les personnes âgées, les questions qui les touchent, ça peut rayonner dans la société. Parce que ce qui touche une catégorie de la population, qu'elle soit âgée, femme, noire ou handicapée, peut contribuer à toucher et à améliorer l'ensemble de la société. Et en se disant ça, peut-être que les personnes âgées vont se dégêner et prendre un peu plus de place. Et si vous dites que les baby-boomers ont l'habitude de parler fort et haut, ben peut-être que dans les prochaines années, on va entendre crier. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu partager vos idées avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Dr. Hébert, merci d'être venu à Montréal pour nous.
Merci. Madame.
Madame Janine Sicco, je vous souhaite une longue carrière. Encore, merci beaucoup. Et je rappelle aux gens qui aiment lire que Jacques Languirand a écrit ce livre-là, Le Dieu cosmique, qui est un livre d'idées, parce que M. Languirand, c'est un homme d'idées, c'est un homme qui aime les idées. Alors, puissiez-vous nous en écrire encore quelques-uns, M. Languirand? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de votre présence et bonsoir. C'est ça, cassez les micros maintenant.